Bien, messieurs, dames, je vais ouvrir maintenant la séance et commencer par procéder à l'appel nominal des conseillers. Abena Laurence.
Présente.
Enzi Jean.
Présent.
Arnaud Michel. Présent. Arnaud Odile.
Présent.
Barra Martine.
Présente.
Barouin Dolores.
Présente.
Biaise Michel.
Présent.
Baumler Laurent.
Présent.
Boucli Johan.
Présent.
Brouillard René.
Excusez.
Excusez. Absent.
Pouvoir.
Pouvoir à Patrick Stéphane. Carpentier Annie.
Présent.
Kérol Evelyne.
Excusez. Pouvoir à Annie Carpentier.
Claude Marie.
Présent.
Coulet Dominique.
Présent.
Floury Patrick.
Présent.
Fourdrin Stéphanie.
Présent.
Grosbon Lisiane.
Présent.
L'ami Christophe.
Oui.
Le Mercier Jean-Claude. Absent. Merlin Marie-France.
Présent.
Panier Francis.
Présent.
Rabé Philippe.
Présent.
Raguido Cécile.
Présente.
Raoui Perugia.
Présente.
Sauvage Patrick.
Présent.
Stéphane Patrick.
Présent.
Urbano Patrick. Absent.
T'as le pouvoir, non ?
Absent. Bien, il y a donc 23 conseillers municipaux présents. Le quorum est donc atteint. La séance sera valide. Je demande qui veut être secrétaire de séance. J'y suis arrivé. Ok. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc Laurent Baumler, secrétaire de séance. Les pouvoirs reçus. Donc nous avons deux pouvoirs. Évelyne Kérol à Arnie Carpentier, René Brouillard à Patrick Stéphane. L'ordre du jour. Donc l'ordre du jour, après l'élection du secrétaire de séance auquel nous venons de procéder. L'approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil municipal du 1er septembre 2014. Les décisions du maire concernant le droit de préemption urbain. Un point concernant l'enquête publique, la déclaration d'intérêt général, autorisation loi sur l'eau concernant le programme pluriannuel de restauration et d'entretien de l'automne. Le point suivant sur le sage de la Nonette et la cartographie des zones humides. Ensuite, la taxe d'aménagement. Point suivant, travaux de voirie rue Saint-Pierre. Convention générale de maîtrise d'ouvrage pour les travaux d'investissement à réaliser sur le domaine public routier départemental en agglomération. Nous aurons ensuite le règlement intérieur du conseil municipal. Un point concernant la police municipale, le procès verbal électronique. Ensuite, pour l'école de musique, la demande d'une subvention exceptionnelle. Toujours pour l'école de musique, un point sur la dénomination des locaux. Bibliothèque municipale, un avenant à la convention avec le Conseil général pour le prêt de documents images. Et toujours pour la bibliothèque municipale, un avenant à la convention avec le Conseil général pour le prêt de documents sonores. Ensuite, un point sur la reconnaissance du bouquet provincial des archers au titre de patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Pour les délibérations, ce sera tout. Nous aurons ensuite un point de situation sur les nouvelles activités périscolaires et le budget provisionnel 2014-2015. Une discussion sur l'avenir du port de Verberie. Au sujet du point concernant les comptes rendus des réunions des organismes extérieurs, la présidente du CIVOM nous fera un point de situation. Et puis, dernier point, questions diverses. Mais à ce jour, nous n'avons pas eu de questions diverses. Donc, Monsieur Jean-Claude Lemercier est arrivé à 20h10. Bien, premier point, je soumets donc à l'approbation du conseil municipal le procès verbal de la séance précédente. Alors, concernant ce procès verbal, qui est contre ? Qui s'abstient ? Le procès verbal de la séance du 1er septembre est approuvé à l'unanimité. Donc, concernant le droit de préemption urbain, en fait, nous avons renoncé à chaque fois au droit de préemption. Ça a concerné un appartement de la SCI des Jardiniers au 36 rue de la République, qui faisait l'objet d'une décision au tribunal et d'une mise à prix de 30 000 euros. Ensuite, nous avons eu un appartement au 7 rue d'Aucourt, Patrice Gerbe, et de même, nous avons renoncé au droit de préemption. Et enfin, Monsieur et Madame Melin, 26 rue de Saint-Ine, voilà, nous avons renoncé également au droit de préemption urbain. Bien, nous allons aborder maintenant les points à l'ordre du jour qui vont faire l'objet de délibérations. Premier point à l'ordre du jour concernant l'enquête publique du SAGEBA et la déclaration d'intérêt général. En fait, c'est le point sur lequel nous sommes amenés à se prononcer, qui concerne le programme pluriannuel de restauration et d'entretien de l'automne. Donc, le syndicat d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Autonne a déposé une demande préalable de déclaration d'intérêt général au titre de l'article L211-7 du Code de l'environnement et une autorisation loi sur l'eau au titre des articles L214-1 et L214-6 du même Code portant sur le programme pluriannuel de restauration et d'entretien de l'Autonne sur 28 communes. La déclaration d'intérêt général, c'est ce qui permet à l'autorité publique d'intervenir sur le domaine privé. Voilà, dans le cadre de l'instruction définie par le décret 93-742 du 29 mars 1993, cette demande doit être soumise au conseil municipal. L'avis de l'Assemblée sera ensuite transmis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Alors, il faut savoir qu'une enquête publique est en cours depuis le 3 septembre, qu'elle s'achèvera le 6 octobre, que pour l'instant, j'ai vu une personne, mais il y en a eu plusieurs, non, deux ou trois personnes venir consulter effectivement le dossier lire le dossier, et pour l'instant, j'ai pas vu de remarques portées particulièrement sur le cahier. Ce que je vous propose concernant ce programme pluriannuel, c'est un avis favorable, accompagné de la remarque suivante. La commune de Verberie constate que les travaux planifiés sur la commune seront pratiquement tous réalisés en 2018 et 2019, soit à la fin de la période de programmation, en année 4 et en année 5 en fait. Elle demande donc à ce que des mesures soient prises pour qu'en cas de retard sur les travaux placés en début de période, ceux placés en fin de période de programmation ne soient pas systématiquement reportés à une phase ultérieure, comme on est placé à la fin et qu'il y a tout un tas d'actions qui se déroulent avant. voilà, que le secteur de Berberie soit entretenu, ce qui doit être restauré dans une première phase restaurée, les répisylves entretenus, du moins pour tout ce qui est programmé. Voilà ce que je propose comme vote à l'Assemblée.
Est-ce qu'on ne peut pas demander que la proximité des lieux d'habitation, effectivement, ça intervient peut-être un peu plus tôt. Qu'on peut comprendre que sur l'ensemble du linéaire, peut-être pas, mais qu'il y ait quand même un minimum d'intervention à la proximité des habitations, ça semblerait assez judicieux, mais sans attendre 2018.
Alors, pour rien vous cacher, j'ai eu une discussion avec le SAGEBA ce matin à ce sujet. Et en particulier, que je me rappelle des rues, à la jonction des rues de Capi et des rues de Saint-Va, c'est-à-dire au bout de la rue de la Cendrière, où là, il y a souvent des débordements. Et d'ailleurs, ce travail-là, cette tâche-là, n'est pas inscrite dans les tâches prévues au plan pluriannuel. Alors ça, typiquement, c'est peut-être un point qu'on peut rajouter. Ce matin, d'ailleurs... on a bien convenu qu'il fallait faire quelque chose et qu'il fallait que les personnes viennent se déplacent sur site. Néanmoins, je rappelle que de toute façon, la délibération que l'on va prendre, elle est surtout relative à la déclaration d'intérêt général, en fait. C'est donner l'autorisation d'intervenir sur le domaine public. C'est surtout ça notre délibération, mais ça n'empêche pas de faire cette remarque.
Je me souviens de mettre effectivement une réserve quant au programme et demander effectivement sur ce périmètre-là une intervention un peu plus tôt tout de même.
Oui, bon, on peut le marquer. On a eu une discussion ce matin. On ne peut pas dire que la discussion était couronnée de succès, mais ça n'empêche pas de le marquer sur la remarque, de le mettre par écrit, pardon. Bien, compte tenu de cette remarque, qui est contre ? Qui s'abstient ? Bon, la délibération est donc adoptée à l'unanimité. Elle comportera finalement deux remarques. Une remarque pour que ceux qui soient placés en fin de liste ne soient pas écartés pour être repoussés à plus loin. Et une remarque pour attirer l'attention sur ce point particulier qui est à l'extrémité de la rue de la Cendrière. Sage de la nonnette. Donc, je rappelle que nous avons sur le territoire de Verberie la chance, si l'on peut dire, d'appartenir à trois bassins différents. Donc, le bassin Oisaronde, le bassin de la nonnette et le bassin de l'automne dont on vient de parler. Donc là, il s'agit maintenant d'aborder le bassin de la nonnette. Bon, il faut dire que la commune de Verberie, là, est juste effleurée par le bassin de la nonnette. Et ça se trouve essentiellement au sud du territoire, sur le plateau. Voilà. Donc le syndicat intercommunal du schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Nonnette a entrepris une révision du SAGE de son territoire. Ce SAGE avait été approuvé le 28 juin 2006. Au vu des évolutions de la réglementation de la loi sur l'eau et des milieux aquatiques de 2006 et du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine, le SAGE de la Nonnette a dû faire l'objet d'une révision afin d'actualiser les orientations et objectifs de la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques du territoire et donc les propriétés d'action sur ce même territoire. Lors des travaux de révision du document, un inventaire des zones humides a été effectué et cartographié. Le syndicat intercommunal du SAGE de la Nonnette souhaite que chaque conseil municipal se prononce sur le plan de zonage des zones humides de son territoire. Voilà. Élément complémentaire, nous n'avons, concernant le SAGE de la Nonnette, sur notre territoire, aucune zone humide. Je précise bien concernant le SAGE de la Nonnette, parce que concernant les deux autres SAGE, c'est pas du tout la même chose. Oui, monsieur Floury.
Oui, effectivement, ce SAGE-là ne concerne pas trop, mais sur les autres, il faudra être extrêmement vigilant, puisque notre zone industrielle a été mise en zone humide, et que si. Ça perdurait, cette situation, nous perdrions 2 millions d'euros puisque c'est la valeur du terrain de la zone industrielle. Et ça pénaliserait la ville de façon extrêmement importante. C'est pour ça que j'attire l'attention sur ce SAGE-là, qui n'est pas le SAGE de la Nonnette, pour que ça ne se passe pas.
Alors, concernant les deux autres sages. Donc pour le sage voisin ronde, les zones humides ont été validées et elles sont limitées sur la partie ouest des étangs. Voilà, près de l'Oise quelque part. Donc là, bon, ce qui est validé, c'est bien, et bon, ça ne nous gêne pas trop. Effectivement, comme vient de le faire remarquer M. Choury, il n'en est pas du tout de même concernant... alors je fais un commentaire, hein, même si ce n'est pas l'objet de la délibération. Il n'en est pas du tout de même sur l'automne. Et là, bon, je crois qu'avant l'arrivée de notre équipe, il y a eu une réunion d'ailleurs qui a été assez tumultueuse, au final... Le Sageba ou la clé, je ne sais plus, ça doit être la clé. Comme j'assistais pas, c'est un peu, pour moi, c'est moins facile de me rappeler. S'est engagé à faire des études complémentaires.
Tout à fait.
Aujourd'hui, la personne qui doit faire les études complémentaires est arrivée. Donc, nous devons la rencontrer. Bon, ça va pas forcément être une partie de plaisir. Évidemment, j'ai déjà parlé de cette situation et que nous, en particulier sur la main fermée, nous étions extrêmement réservés sur le fait que ça devienne une zone humide.
D'autant plus que ça n'est pas humide puisque c'est que du sable. Donc ça a été remblayé, donc en aucun point sur cette zone, il n'y a de zone humide. Donc cette carte a été faite sans venir sur le terrain. Donc il faut que le bureau d'études se déplace et vienne voir et prenne en considération que le terrain n'est pas humide.
Alors aujourd'hui, le Sageba a donc embauché une personne un peu spécialiste des zones humides. Donc dans un premier temps, cette personne va venir, courant octobre, elle va venir sur site, on va aller sur le terrain, et c'est ensuite que normalement on doit faire appel, comme vous l'avez évoqué, à un bureau d'études dit indépendant. On va se battre pour maintenir cette position parce qu'on sent que le Sageba n'est peut-être pas aussi ferme sur ce qu'il avait affirmé lors de cette fameuse réunion. Il ne reste pas très très ferme là-dessus. Voilà. Bon, je ferai quand même un commentaire sur les 2 millions d'euros, si vous le permettez. C'est que c'est vrai, vous avez raison, il y a une promesse de vente de 2 millions d'euros, dont on a d'ailleurs déjà touché 300 000 euros. C'est dire que si la promesse de vente ne se réalise pas, on aura 300 000 euros à rembourser, hein, puisqu'ils ont été mis à l'époque dans la trésorerie. Et puis l'autre point qui me fait mettre un bémol sur cette affaire-là, c'est quand même que la promesse de vente, c'est une promesse de vente qui date de 2008, et que de 2008 à 2014, pour l'instant, la personne qui est chargée de conduire la vente n'a toujours pas abouti. Alors, c'est donc que c'est pas très très facile, ça l'est peut-être sans doute jamais. Oui.
Sur un seul terrain, je suis d'accord, puisque nous avions choisi à l'époque, par rapport aux voies, hein, puisqu'il y a 12 voies de triage, c'était une des seules zones industrielles autour de la région parisienne où on peut charger et décharger des trains complets sans décrocher les wagons. Et la SNCF nous avait demandé qu'on ne parcellise pas ces terrains, hein, pour justement qu'ils puissent s'en servir, parce qu'autrement, le coût d'une gare de triage comme ça, c'est très cher, et c'est la seule autour de Paris qu'on peut charger et décharger, d'où l'intérêt du ferroutage. Et c'est la SNCF qui nous avait demandé de ne pas parcelliser les terrains, mais enfin, il est vrai aujourd'hui que la SNCF ne s'est pas beaucoup investie dans les opérations, mais que la valeur du terrain reste toujours, parce que si nous parcellisions ces terrains, nous en tirerions quand même les 2 millions d'euros. Donc c'est pour ça que c'est quand même important de le souligner aux sages, parce que ça ferait une perte considérable pour la ville.
Oui, oui. Alors après, sur la somme de 2 millions d'euros, on verra. Mais de toute façon, c'est vrai que cette zone, outre les aspects financiers, il y a aussi l'activité qui pourrait s'y développer, ce qui est, à mon avis, l'un des premiers points. Et donc c'est extrêmement important. Là je suis maintenant, est-ce que on va effectivement se battre dans ce sens-là et j'ai déjà commencé. Maintenant on verra ce que ça donne tout ça.
Oui, je reconnais que la conjoncture n'est pas facile.
La conjoncture n'est pas facile et tout ce qui est zone humide, les discussions ne sont pas forcément très faciles non plus. L'État imposant un peu.
Enfin, il faut faut quand même...
Il faut défendre sa position. Je suis d'accord. Je vous propose de revenir à la délibération du sage de la nonnette. Donc ça va être beaucoup plus facile, à mon avis. Donc nous n'avons aucune, je le répète, aucune zone humide sur la partie de notre territoire du sage de la nonnette. Donc je propose à la séance d'émettre à l'Assemblée d'émettre un avis favorable en validant la cartographie des zones usines, des zones humides. J'ai là la partie des zones humides, je peux vous la faire passer pendant qu'on aborde les autres points. Bon, c'est une carte qui est très très vague, mais néanmoins, Verberie est là-haut, vous voyez, ici, là, en petit. Et en fait, les endroits où se trouvent des zones humides, ce sont tous les endroits où il y a eu, on voit des zooms ici qui ont été faits, qui sont sur les autres pages du document. Donc on voit bien que sur Verberie, il n'y a aucune zone humide. Sur le sage de la nonnette, encore une fois. Alors concernant cette délibération, qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, donc à l'unanimité, nous émettons un avis favorable qui valide la cartographie des zones humides présentées. Point suivant de l'ordre du jour, la taxe d'aménagement. Alors en fait, dans le conseil municipal, dans la séance du 30 septembre 2011, a créé la taxe d'aménagement et le 18 novembre 2013 a fixé le taux de cette taxe à 3% sur la totalité du territoire de la commune. Je rappelle que le niveau maximal de cette taxe est de 5%. Sur cette délibération était indiquée une date de fin au 31 décembre 2014. Afin d'éviter des recours, les services de la direction départementale des territoires conseillent aux communes de prendre une nouvelle délibération, précisant que le taux est reconduit d'année en année, sauf renonciation expresse, sachant que les taux et exonérations peuvent être révisés tous les ans. Voilà, en fait, c'est d'éviter ce problème de date de fin de fin d'application de la délibération et de la taxe d'aménagement, et donc de rendre le système qui se continue de lui-même. Donc, je vous propose de reprendre une délibération précisant que le taux de la taxe d'aménagement est reconduit d'année en année, sauf renonciation expresse. Le taux et les exonérations éventuelles pourront être révisées tous les ans. La délibération devrait être transmise au service de l'État chargé de l'urbanisme dans le département au plus tard le 30 novembre pour une application au 1er janvier de l'année suivante. Et j'indique en complément que le taux reste à 3%, on ne modifie pas le taux. Voilà. Oui ?
Est-ce qu'il serait pas justement, est-ce que ce ne serait pas justement le bon moment de réfléchir à peut-être le baisser sur les zones à vocation économique pour avoir un peu plus d'impact, on va dire ?
Alors, concernant cette affaire, pour l'instant, après réflexion, effectivement, on laisse les taux au même niveau. Après, on verra, on pourra toujours... on peut toujours, de toute façon, d'ici le 30 novembre, donc on aura deux conseils municipaux, on pourra toujours y revenir. Mais enfin, aujourd'hui, la situation de nos finances sont quand même assez complexes, d'autant plus que l'État, on est pris par un effet de ciseaux, l'État baissant les dotations globales, nous avons déjà perdu 30 000 euros cette année, enfin 28 000 exactement, et augmentant par ailleurs les contraintes sur tout un tas de points. Donc pour l'instant...
Je pense que c'est quelque chose qu'on pourra évoquer lors de notre débat d'orientation budgétaire, ça.
Ça me semble nécessaire.
On peut le revoir à ce moment-là.
On ne gagne rien, donc
s'il vous plaît. On va avoir un débat d'orientation budgétaire voilà. En février, donc on pourra...
Là, si vous voulez, on prend une délibération dans un cadre pour s'assurer qu'on a une reconduction automatique. Et effectivement, le débat d'orientation budgétaire, ce sera le moment de mettre tout ça sur la table, en fonction des priorités que l'on donne, de ce que l'on veut faire.
On a parlé d'une position, c'est une somme nécessaire pour le développement économique. On pourra en parler.
Oui, on en parlera. Je reviens donc à la délibération.
Oui.
Donc là, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc la délibération est adoptée à l'unanimité. Et en complément, alors ça ne figure pas à la délibération, mais effectivement, il faudra réfléchir à tout ça, sachant qu'on a tous intérêt à ce que l'activité économique reparte. En particulier sur Verberie et ailleurs également. Point suivant de l'ordre du jour. Travaux de voirie rue Saint-Pierre. Donc convention générale de maîtrise d'ouvrage pour les travaux d'investissement réalisés sur le domaine public routier départemental en agglomération. Donc je rappelle à l'Assemblée que lors de la dernière réunion du Conseil municipal, au 1er septembre 2014, le Conseil municipal m'avait autorisé à signer une convention avec le Conseil général relative aux travaux de voirie prévus sur la route départementale 123, rue Saint-Pierre, où il s'agit de mettre en place un espace surélevé pour qu'il y ait une plus grande sécurité à la traversée de la route de Saint-Pierre, à ce niveau-là, et qui permet de rentrer dans le château, un endroit où passent notamment beaucoup d'enfants, et qui, bien qu'étant limité à 30 km/h, on peut tous constater régulièrement que les véhicules ne respectent pas cette limitation de vitesse. De temps en temps, je passe et je respecte. Madame Bourbon.
Moi, je respecte toujours.
Et je ne doute pas que chaque membre du conseil municipal en fasse autant.
Ben, je ne suis pas certaine.
Même les habitants.
C'est dur.
Voilà.
Parfait. Non.
Déjà, ça.
Bien. Bon, pour revenir sur le point, pourquoi ça revient devant nous aujourd'hui. Bien qu'on se soit renseigné à l'époque et qu'on nous ait fourni un nouveau modèle de convention auprès du Conseil général, il s'avère que le nouveau modèle transmis n'était finalement pas le dernier modèle en vigueur. Donc on a de nouveau, maintenant on doit avoir le bon, enfin j'espère, et qui intègre notamment les dernières dispositions du Code de l'environnement, et notamment ce qu'on appelle la loi LOR, loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. Donc il est demandé aux collectivités, par cette loi, de mettre au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. Alors en fait, je propose à l'Assemblée de prendre donc une nouvelle délibération, décidant de la non-réalisation à ce niveau, évidemment, d'aménagement cyclable rue Saint-Pierre, au motif que les trottoirs existants très étroits sont réservés en priorité aux piétons et ne permettent pas l'aménagement d'une piste cyclable, et aussi qu'il est possible d'emprunter des itinéraires parallèles, moins chargés à la circulation, sur le côté opposé au château. On peut passer par d'autres routes. Deuxième point, je vous demande de m'autoriser à signer la convention générale de maîtrise d'ouvrage pour les travaux d'investissement à réaliser sur le domaine public routier départemental en agglomération avec le Conseil général de l'Oise. Voilà. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Très bien, la délibération est adoptée à l'unanimité et je rappelle que suite au dernier conseil municipal, nous avons bien sûr fait une demande de subvention au titre de la DETR pour ces travaux. Point suivant de l'ordre du jour, le règlement intérieur du conseil municipal. Donc la loi d'orientation du 6 février 1992, relative à l'administration territoriale de la République, impose aux communes de plus de 3500 habitants de se doter d'un règlement intérieur qui doit être adopté dans les 6 mois qui suivent son installation, donc avant le 30 septembre. Voilà. Alors le règlement intérieur vous a bien sûr été transmis. Je vous propose d'approuver ce règlement, sachant qu'évidemment, un règlement peut toujours être amendé par la suite, hein, parce que c'est à Verberie, on était avant en dessous de 3500 habitants, il n'y avait donc pas de règlement intérieur. Là, donc, on met en place ce règlement intérieur comme nous l'impose la loi. Donc, je vous propose d'approuver ce règlement.
Nous avons plusieurs remarques quand même sur le règlement intérieur.
Oui. Alors, attendez, on va me passer le document papier. Il n'est pas fort que j'en ai un. Merci.
Sur le premier point, mes collègues, parce que c'est sur la question de transmission des documents.
Oui, la transmission des documents par Internet. Bon, les pièces jointes, moi j'ai demandé à ce que j'ai.
Moi j'ai pas répondu.
J'ai une convocation sur papier et les documents et pièces jointes par envoi papier. Et je souhaiterais que ça puisse continuer.
Oui.
Voilà. Ça concerne aussi les annexes. Parce que,
Également les annexes, hein, puisque bon, lorsque vous imprimez, là je vois, j'ai tout le dossier, encore je vois tout le dossier, puisque je n'ai pas les cartographies du SAGE. Bon, si il faut imprimer, bon, moi j'ai cette partie-là, les conseils municipaux, c'est-à-dire pour travailler dessus, il faut quand même les imprimer. Et bon, le dossier, par exemple, au SMDU, il est fait comme ça, hein, à chaque séance. Donc, à chaque fois, vous passez votre temps. Bon, moi, j'ai demandé que ce soit une version papier, j'ai aussi une version papier. Bon, c'est un peu des communiquants des versions papier, parce que je vous dis que ça n'est pas à l'élu de passer son temps dans les imprimantes ou dans les dossiers. Donc, c'est sur ce sujet que je souhaite que ceux qui demandent des convocations de papier, et la convocation, c'est pas encore le problème, c'est surtout les annexes des convocations et pièces jointes. Et que, bon, que je souhaiterais que ceux qui veulent les avoir sur papier puissent continuer à les avoir sur papier.
Alors, deux points de réponse là-dessus. La première, c'est, enfin, une réponse du moins. Oui, ceux qui, d'ailleurs, il y avait eu un. Ceux qui veulent l'avoir sur papier peuvent l'avoir, les documents transmis sur papier peuvent les avoir sur papier. D'ailleurs, on attend un certain nombre de réponses, toujours. Donc, je souhaite.
J'étais désolé. J'ai dit non.
Si tout le monde peut répondre. Le deuxième point, c'est quand même que si on en vient à de la transmission papier, on va réduire notablement l'épaisseur des documents transmis. Parce que. Voilà, après ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'impression. Tout ça, c'est un peu, c'est de l'argent quand même. Et puis ensuite, de l'argent public évidemment. Et ensuite, par contre, dans ce que vous dites que pour travailler, il faut nécessairement imprimer les choses. Non. Moi, j'imprime assez peu de choses. Hein. Après, c'est une méthode de travail. Hein.
Moi, j'aime bien ce
que vous. Peut-être que tout le monde ne les lit pas, hein, les annexes. Hein. Alors, vous savez, bon. Mais ni les pièces jointes. Mais moi, les annotations, elles sont directement sur, sur les documents et à chacun sa façon de travailler. Moi, j'ai besoin des documents pour pouvoir travailler. Bon, mais à chacun, chacun sa façon de travailler.
Alors, Madame Arnoux.
Oui, c'est juste un petit rappel au conseil précédent. Je crois me souvenir que M. Lamy voulait que le conseil achète des tablettes.
Monsieur Lamy a posé une question quant à cette utilisation de tablettes.
L'achat de tablettes pour chacun de nous parce que ça évitait justement cette diffusion de papier. Donc voilà
Aujourd'hui, si la question de ces tablettes, c'est pas la solution. Donc en attendant les élus qui souhaitent avoir les documents pour pouvoir travailler correctement, ils sont mal, et plus ils vont pouvoir faire.
Aujourd'hui, qui a le dossier là sur la table?
Je l'ai. Tu l'as pas pris, mais tu n'as pas demandé à avoir le dossier. Moi, je suis en faute, là. Mais j'ai remédié.
Je dis pas tout, j'édite ce dont j'ai besoin. Quoi.
Oui, tout à fait.
Je regarde, alors, je lis. Et...
Alors, concernant d'abord ce qui est écrit dans, le, dans ce document, n'exclut pas les documents papier. Hein, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je le répète, si on transmet des documents papier, on va forcément se limiter au minimum. Imaginez le dossier du Sageba dont on a parlé dans l'un des premiers points, enfin c'est vraiment le premier point de l'ordre du jour, il doit faire 300 pages. Alors ce dossier est consultable en mairie, d'autant plus que c'était une enquête publique, mais il en est... Il en est... Oui, mais là j'ai pris cet exemple-là, il y a des documents qui font plusieurs centaines de pages.
Non mais c'est des documents sur lesquels nous avons des décisions à prendre.
Alors,
il vient juger à l'enquête, il est présent à la mairie, donc ceux qui veulent souhaiter en prendre connaissance, c'est comme ils se déplacent.
Bah, l'enquête, elle est sur le site internet. Elle est sur le site internet, il suffit d'aller voir dessus.
Oui, mais ça va plus, c'est différent.
Oui, d'accord.
J'ai une
bon.
Non, j'ai pas répondu parce que je vais te dire, j'étais d'abord en imprimante, je n'avais toujours pas mon imprimante. En plus, j'avais mes quatre petits, j'avais Eric Nanon. Alors, honnêtement, mon ordinateur, il est
capable de faire des imprimantes.
Bon. S'il y a des notes de synthèse, alors il n'y a pas de formalisme qui soit exigé pour les notes de synthèse. Je rappelle, si vous cherchez un document, il n'y a aucun formalisme exigé pour ça. Donc la note de synthèse, elle peut être très courte.
D'accord. Ce qui ne facilite pas forcément le travail des uns et des autres, et ni le débat d'ailleurs.
Oui.
Bah oui, non, mais voilà.
Il faut trouver
un juste milieu.
Il faut trouver un juste milieu, bien sûr.
Que chacun puisse comprendre.
Pas claquer trois lignes.
Parce que c'est vrai que si à chaque fois on va discuter de tel point, je suis persuadé qu'il y a un certain nombre qui ont déjà vécu la question publique ou qui y travaillent. Donc on va dire qu'on connaît un certain nombre de sujets, mais je suis sûr qu'autour de la table, vous avez un certain nombre d'élus, alors qu'ils soient d'opposition ou pas, c'est pas le problème. Si on regarde la note extrêmement basique, ils arrivent ici, ils vont juste lever la main ou la baisser, sans rien savoir. C'est dommage.
Peut-être pas quand même.
C'est pas bon, je laisse au conseiller s'exprimer.
Peut-être pas quand même. Vous, ils nous prennent pour des chèvres ou quoi? En gros, on est que des chèvres, quoi.
Un peu de silence, s'il vous plaît.
Tranquille.
Le choix qui a été fait, là, en l'occurrence, c'est de transmettre les documents plutôt sous forme numérique et par contre de transmettre beaucoup de documents. Bon, après, il y a peut-être des sujets que certains conseillers regardent de plus loin, d'autres sujets qu'ils regardent de très près. En tout cas, ils ont le choix, effectivement, de se plonger au cœur du dossier et d'avoir les mêmes éléments, quasiment, que ceux dont je dispose. Voilà. Maintenant, si on doit tout imprimer, vous imaginez le nombre d'heures de travail.
Non, puis on avance un peu dans le numérique quand même.
Je peux ajouter quelque chose, Michel ?
Oui.
Justement, parce que c'est vrai qu'un des principes de base, c'est que tout conseiller municipal, pour exercer sa fonction intelligemment, doit pouvoir disposer de tous les documents qui estiment nécessaires. Oui. À la délibération.
C'est dans le règlement.
Donc, effectivement, à partir du moment où vous recevez, chacun de nous reçoit sa convocation avec l'ordre du jour, il est en état même de venir en mairie demander les documents que la mairie possède sur ce dossier pour pouvoir le consulter et délibérer en connaissance de cause.
Il les consulte sur place à ce moment-là.
Sur place, auprès du maire et de la directrice générale des services.
Un peu comme l'enquête publique, c'est pour ça que j'ai cité ce cas tout à l'heure.
Ce serait beaucoup plus simple et moins coûteux.
Oui, c'est quand même pour s'il faut venir.
Oui,
c'est ce que dit le texte.
Oui, mais faut qu'on amène.
Oui, mais enfin, je pense que c'est pour l'intérêt général. Enfin, on est en 2014, de plus en plus, on va vers le numérique. Bon, c'est. Il y a des sociétés qui ne nous laissent plus le choix, hein, des sociétés privées qui ne nous laissent plus le choix non plus. Hein.
Si ça a un document simplifié, je n'ai pas besoin des enquêtes publiques. Mais il faut qu'il y ait des explications par rapport.
Écoutez, bon.
Mais là, c'est parfait. J'ai pas envie de...
Ce que tu as reçu aujourd'hui, ça te va très bien.
Très bien, très bien. Ça me convient très bien.
Est-ce qu'il faut marquer dans le règlement intérieur que ceux qui le désirent fassent une demande et n'auront pas sur papier?
Mais non, mais puisque la demande a déjà été faite.
Ah oui, remplir le questionnaire.
Oui, mais comme c'est un règlement intérieur,
non, bah, le règlement intérieur, là, il n'empêche pas la transmission sur papier. Voilà. C'est le premier point abordé. Donc, je ne sais pas ce que vous en avez d'autres.
Ouais, on va essayer de faire vite.
Bon, bah.
Juste une petite note. Il y a vrai que des questions. Pour les questions, vous donnez un délai 48 heures avant le conseil.
Oui, monsieur l'ami.
Avec une convocation à 5 jours, ça peut être un peu court. Voilà, juste une petite remarque. Pourquoi? Parce que bon, si les uns et les autres les posent des questions éventuellement à titre personnel, bon, écoutez, nous on travaille un petit peu autrement puisqu'on se rencontre et qu'on travaille ensemble. Alors, donc c'est une petite remarque quant à ce point.
Les commissions, ça me semble un petit peu court à 3 jours, mais bon, je sais que c'est le délai légal.
Voilà.
Mais enfin, pour 3 jours, ça peut faire un peu juste quand même. Donc, au moins, sur les 5
jours. Là, c'est un délai minimal qui est indiqué. Bon, c'est le délai minimal. Moi, je pense qu'il faut laisser le délai minimal dans le conseil municipal, mais dans le règlement intérieur du conseil municipal. Derrière, ça n'empêche pas les vice-présidents ou le président, d'ailleurs, de convoquer à plus de 3 jours. Pour la commission PLU, je crois que la prochaine réunion, alors on a annulé celle-ci, mais vous avez été prévenu et plus de 3 jours avant.
Totalement. Bon. Je suis venu quand même, c'est pas grave.
Ouais, on peut...
La commission scolaire, on l'a fait 15 jours avant.
Voilà, elle a lieu le 23 octobre et vous êtes déjà prévenu.
Il y a certains qui disent que c'est préférable d'avoir un peu plus de...
Voilà, et ce qui est indiqué là, c'est le délai minimal. Mais rien n'interdit au président ou vice-président de faire mieux. Oui, on mettra au minimum 3 jours, effectivement. La convocation accompagnée de l'ordre du jour, donc on est en haut de la page 8, hein, est adressée à chaque conseiller à son domicile au minimum 3 jours avant la tenue de la réunion. Très bien. Ben, je ne sais pas, à celui qui veut parler. Hein. Donc à vous, monsieur l'ami.
On a noté aussi un point en ce qui concerne l'article 29. Juste à préciser que nous restons dans l'attente effectivement de vous rencontrer pour définir les modalités d'attribution de ça et d'organisation.
Bon, on a fait une réponse à ce sujet-là, hein, qui a été transmis il y a déjà un certain temps. Oui. J'attendais que vous reveniez vers nous après la réponse.
Moi, j'attendais les propositions du règlement intérieur, ce qui me semblait logique. Donc on s'attendait.
Nous allons pouvoir nous rencontrer. Voilà. Très bien.
On va se voir.
Autre point.
Sur la question de l'article 30, en ce qui concerne la partie expression de l'opposition.
Oui.
Au départ, on nous avait dit 250 mots, donc limité en ce qui concerne le document, puisque, en tout cas, c'était l'argument initial, qui est un document qui serait limité à 4 pages. Aujourd'hui, on note qu'il est de 8 pages. Est-ce qu'on peut réviser cette question des 250 mots?
Pour l'instant, on la laisse à 250 mots. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a ce qu'on a annoncé, hein, qu'il y aura 4 publications par an, puisque c'est trimestriel. Voilà, il y aura donc 4 fois 250 mots, soit 1000 mots sur l'année. Maintenant, ça, c'est dans le bulletin municipal. Hein. Rien ne vous empêche, vous, de faire quelque chose à part. Hein.
D'avoir une partie expression sur le site.
Ça, c'est...
Ici, c'est un tout petit point complémentaire aussi par rapport à l'expression. De la même manière que tout à l'heure sur la convocation à 3 jours pour les commissions, qui nous semble un peu restrictive, on va dire, le délai qui est donné de 7 jours sachant que, bien évidemment, lorsque vous préparez le document de communication de la commune, bien évidemment, il est travaillé, on va dire, avant 7 jours, parce qu'il est plus long, limiter pour l'opposition l'information à 7 jours, ça nous semble un petit peu juste.
Enfin, pour rédiger un texte de 250 mots, 7 jours, c'est...
C'est d'autant plus difficile qu'il n'y a que 250 mots.
Oui.
Oui, mais comme on sait qu'il est de toute façon trimestriel, vous pouvez aussi le préparer, je suppose.
Le mot du maire doit faire 250 mots, là, dans le dernier, hein, à 10 mots près. Et j'ai dû mettre 2 heures pour le... Même pas. 1 heure pour le rédiger.
Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Comment ?
Vous pouvez le préparer à l'avance.
Ah oui.
De toute façon, vous savez que le prochain va sortir à peu près dans 3 mois.
Voilà. Donc vous savez que...
Si je peux me permettre, je crois qu'il y a eu un échange de mail avec Mme Perrot, et que sur le délai de 7 jours, il me semble que vous étiez quand même d'accord...
Oui, de la même manière, effectivement, Madame Pirol a dit qu'elle serait nécessaire pour nous prévenir plus tôt. Donc, de la même manière, sur l'article, ça pouvait être précisé au minimum 7 jours.
Au minimum 7 jours.
Et si on peut essayer de travailler correctement, ce serait quand même pas mieux.
Terminologie.
Merci.
Au minimum 7 jours. Pardon, je reprends, c'est pas au minimum, là c'est plutôt au maximum. Ouais, c'est pas au minimum là. Non, c'est ce groupe doit faire parvenir son texte 7 jours après que la demande lui en était faite. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de minimum ni de maximum.
Oui, en fait, quand on est informé de la parution, en fait, c'était 7 jours avant. Donc, c'est...
Non, mais la date de parution, elle est connue d'avance. On sait que c'est tous les 3 mois, donc ça vous laisse quand même le
temps. À quelques jours près, vous connaissez la date de parution.
Ah oui. Donc, quand même, c'est...
7 jours. Au baccalauréat, c'est 4 heures, je crois, pour la dissertation.
Il y a plus de 250 mots. S'il fallait résumer la dissertation de 250 mots, c'est pas ça.
Ouais. Bien. C'est bon. Bon, et encore une fois, je le répète, là, c'est la version 1. Donc, on va valider. Rien ne nous empêche après de revenir lors d'un conseil municipal et de modifier. Hein.
Vous aviez une question sur la sur l'article 14 là.
Non, c'est bon.
Eh bien, ça y est, c'est bon, c'est réglé. Allez, on passe. C'est
bon. Bon, donc je reviens. J'avais proposé, je propose toujours d'approuver le règlement présenté. Donc, il a subi une modification. Ce sera donc au minimum 3 jours pour les convocations des commissions. Et moyennant cette modification, je vous propose donc d'approuver le règlement présenté. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Très bien, le règlement intérieur est approuvé à l'unanimité. Police municipale, procès verbal électronique. Alors, aujourd'hui, le numérique gagne même le domaine des procès verbaux. Bon, la gendarmerie l'utilise déjà depuis un certain temps. Ce qu'on se propose, c'est effectivement d'élargir ça au domaine de la police municipale. Cette démarche, donc, elle permettrait de supprimer le papier, enfin, pas tout à fait en fait, je vais y revenir, et de procéder à un traitement automatisé des infractions. Ça, c'est plus intéressant. L'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, l'ANTAI, fournirait à la commune à titre gracieux le logiciel PVE, ainsi que l'application de gestion centrale AGC en mode web, et l'application de création de signature électronique. Bref, pour nous, le coût de cette affaire, pour en parler, c'est justement, je cherche le mot, une tablette. Voilà. Hein, ça revient à ça, puisque en ce moment, on a quand même quelques ordinateurs de disponibles, puisqu'on vient de changer un certain nombre d'ordinateurs, j'y reviendrai tout à l'heure à titre d'information. Donc, qu'est-ce qu'on attend de ce processus de verbalisation électronique ? L'avantage pour nous, vu du policier municipal, c'est l'allègement des tâches administratives de suivi. Parce que quand vous rédigez des choses de manière écrite, vous devez les retranscrire, et vous devez envoyer, et il y a tout un process à conduire qui est assez lourd. Là, le processus est automatisé, donc ça part avec une signature électronique. Et ensuite, la personne reçoit chez elle la contravention, pardon, et elle peut, une fois qu'elle l'a reçue, elle peut évidemment contester. Elle n'est pas obligée de payer avant. Hein. Elle peut contester cette contravention. Voilà. Point supplémentaire. Je termine, Michel. Point supplémentaire. C'est pour ça que je dis que le papier, c'est pas tout à fait vrai, enfin, pas totalement, puisque l'agent qui fait ça, et c'est ce que l'on fera, c'est ce que fait la gendarmerie, puis même c'est dans le processus, laissera sur, évidemment pour les véhicules à l'arrêt, hein, ceux qui sont en mouvement, laissera sur les véhicules un avis d'information sur le pare-brise. C'est ce que fait la gendarmerie aujourd'hui, hein, si vous avez un procès-verbal, elle laisse sur votre pare-brise un papier comme quoi vous avez été verbalisé et que sous un délai de tel jour à telle heure et que sous un délai de 8 jours, vous allez recevoir le papier qui va bien dans votre boîte aux lettres. Voilà. Bon, il y a une certaine pression aussi de...
C'est beaucoup dire.
Comment ?
Ce qui va bien, c'est beaucoup dire.
Oui. C'est beaucoup dire, mais bon.
Et combien il y a de PV dressés en fin de route ?
Je ne sais pas aujourd'hui.
C'est sûrement du stationnement, je suppose.
C'est essentiellement du stationnement.
Ouais, d'accord.
Voilà. Il n'y a pas forcément que ça, j'ai au moins 2-3 autres cas, mais oui, il peut y avoir des déchets illégaux, par exemple.
Ah ouais.
Pour des déchets illégaux, ah ouais. Il y a eu un ou deux procès verbaux qui ont été dressés. Oui, Madame Coulet.
Voir l'évolution.
Oui, à titre d'information.
À titre d'information, on aurait pu faire un suivi.
Bon. On ne fera pas ça à chaque conseil municipal, hein. On fera ça on est d'accord.
Une fois l'an,
voilà. Exactement.
On peut faire mieux l'année d'après.
Si les gens, ils se gardent mieux. C'est déjà bien.
Non, mais quelle en est la nature?
Faire mieux, c'est au sens de ce que vient de dire Madame Grosbon.
J'imagine un peu mal, parce que, hormis le stationnement, si par exemple, ça peut être APV dressé, comme vous avez rappelé dans ce trio, les devoirs civiques, par exemple, si c'est une tondeuse ou je ne sais pas quoi, passer le dimanche après-midi, enfin, que sais-je. Juste pour voir un peu la nature des...
Bon. Alors ce sera une nouveauté, parce que je crois que ce sera la première fois que ça se fait à Verberie, mais on rendra compte du nombre de procès verbaux qui sont dressés annuellement.
Il faut vous rappeler que l'État recense d'ailleurs tous les ans, dans les communes qui ont les polices municipales, leur demande tous les ans, le bilan des PV dressés dans l'année, puisque ce nombre de PV permet à la commune par la suite de récupérer une partie du produit des amendes qui est reversée par l'État et qui alimente la section d'investissement du budget communal. Et ce produit est destiné exclusivement à l'amélioration de la sécurité routière.
C'est pas automatique.
Donc typiquement, ça aurait permis de payer une partie, on va avoir l'autre subvention, de l'aménagement de la rue Saint-Pierre.
Absolument.
Oui, Michel.
Vous dites qu'on peut contester un procès avant de payer.
C'est la loi.
Est-ce que c'est vrai ou c'est...
Oui. C'est
vrai.
C'est la loi. Tu peux contester.
On peut contester avant de payer.
C'est le même procédé.
Un peu de silence. Merci. Donc on peut contester, vous pouvez aller sur le site de l'Entaille, Donc l'ANTAI étant l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, et vous aurez un descriptif de fonctionnement du PVE, donc du PV, du procès verbal électronique. Hein, c'est celui que je viens de détailler.
Mais tu contestes que c'était pas une fois, sinon ça sert à rien. Hein,
ça, c'est un autre problème.
Il faut être honnête quand même.
Bien. Donc, je vous propose de revenir à notre sujet. Je vous propose donc de m'autoriser à mettre en œuvre le processus de verbalisation électronique, premier point, et de m'autoriser à signer la convention à venir avec monsieur le préfet de l'Oise. Qui est contre ? Qui s'abstient ? D'accord. Qui est pour ? Tous les autres. Donc, une abstention et 22 votes pour. Je précise que le but, c'est pas de mettre un maximum de procès-verbaux. Comme l'a souligné Mme Grosbon tout à l'heure, le but, c'est d'avoir des personnes qui se comportent mieux, que ce soit du point de vue du stationnement ou du point de vue de la conduite de leur toutou, comme vous le souligniez tout à l'heure. Bon, c'est pas gagné, mais... Voilà. Point suivant de l'ordre du jour. École de musique de Verberie. Donc la commune a été saisie d'une demande de subvention exceptionnelle pour l'école de musique de Verberie au départ de M. Lionel Rivière. Alors le contexte, avant de donner la parole à Mme Arnoux, le contexte est le suivant. En fait, M. Lionel Rivière assurait la direction de l'école de musique depuis un certain nombre d'années. Bon, il le faisait de manière... Comment ?
23 ans.
Depuis 23 ans, il le faisait de manière bénévole et il avait bien sûr à côté de ça d'autres activités professionnelles à Compiègne et ailleurs. Il se trouve que la carrière avançant, il a une possibilité de prendre la direction de l'école de musique de la Clusaz, ce qui ne va pas être désagréable à mon avis. C'est pour lui une opportunité et on ne peut que s'en réjouir. Il nous a déjà donné pendant 23 ans de son temps. Donc, il convient de le remercier. Voilà. Il a toujours fait ça avec gentillesse. Et puis, il a mis un tas d'activités sur Verberie au niveau musical, qui sont très intéressantes. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, l'école de musique, évidemment, veut continuer. Et nous, l'école de musique de Verberie, c'est quand même quelque chose qui fonctionne bien. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de spectacles, c'est la culture. Et puis la culture, c'est le vivre ensemble aujourd'hui. Et le vivre ensemble, quand ça va mal, c'est d'autant plus important, ou quand ça va pas très très bien dans le contexte général. Donc ceci dit, je cède la parole donc à Madame Arnoux.
Je vais vous faire lecture du courrier de la présidente de l'école de musique, Marie-Virginie Duvigny. Donc, le 23 septembre, création d'un poste de directeur artistique et pédagogique de l'école de musique de Verberie. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, le départ à la fin de ce mois de notre actuel directeur, Lionel Rivière, nous oblige à son remplacement. Lionel Rivière a dirigé notre école gratuitement pendant 23 ans, par reconnaissance à Paul Vallée, qui a été à la base de sa carrière de musicien professionnel. Par ailleurs, notre chef était employé territorial titulaire à temps plein à la ville de Compiègne en tant que directeur de l'orchestre batterie fanfare. Depuis sa création, l'école de musique de Verberie, qui est une association de loi 1901, est gérée administrativement par les bénévoles du conseil d'administration, englobant secrétariat et trésorerie. Le départ de Lionel nous pousse donc à prendre un virage et nous souhaitons à cette occasion insuffler à l'école de musique une vague dynamisante qui permettrait de rayonner davantage à Verberie. C'est pourquoi nous demandons la création d'un poste de 5 heures hebdomadaires, ce qui peut paraître peu, mais suffirait pour la direction artistique et pédagogique de l'école. Nous sommes conscients que ce n'est pas envisageable pour cette rentrée qui a déjà eu lieu,
et nous nous organisons actuellement pour essayer d'y parvenir, d'y pourvoir. Demander de une demande de subvention exceptionnelle auprès de la CCBA, du Conseil général de l'Oise, de la commune, des communes à l'extérieur dont les administrés viennent prendre des cours dans notre structure, recherche de mécénat. Par chance, nous avons en personne de Clémence Van Damme, une remplaçante. Elle a, pour ce faire, réduit de 5 heures son volume horaire hebdomadaire dans votre collectivité afin d'assurer le fonctionnement de l'orchestre et de l'école dès le départ de Lionel. Cette musicienne professionnelle a assuré pendant plusieurs années les cours de clarinette et de formation musicale à Verberie et a très souvent remplacé notre chef pour diriger l'ensemble instrumental. Pour cette année scolaire, en attendant un avis favorable pour la création du poste, nous demandons une subvention exceptionnelle de 1 000 euros qui, ajoutée aux autres demandes exceptionnelles décrites plus haut, pourrait financer le poste pour un an. Les autres subventionneurs, entre guillemets, potentiels, ont besoin de voir que la commune, première touchée par ce changement, fait un effort financier. La subvention actuelle de 18 000 euros versée par la commune couvre juste l'ensemble des salaires de nos professeurs, tous des professionnels, payés 14 euros de l'heure depuis 10 ans au lieu de 18 euros. Chaque projet et chaque création musicale ont fait l'objet d'une demande de subvention auprès du Conseil général et n'ont pas été imputés sur le budget municipal. Notre école, pour rayonner, doit prendre un nouveau départ avec une direction présente, aussi bien à toutes les cérémonies. Lionel Rivière assurait celle de Compiègne auprès des sautriots, notamment des enfants dans le cadre, par exemple, des nappes. Pour toutes ces raisons, je vous demande d'étudier favorablement la demande de subvention de 1 000 euros, puis dans un deuxième temps, la création d'un poste de directeur artistique et pédagogique de l'école de musique de Verberie pour la rentrée scolaire 2015. Avec mes plus sincères salutations, Marie-Virginie Duvillier, présidente de l'école de musique. Donc il est vrai qu'à plusieurs reprises, nous nous sommes rencontrés.
Je fais juste un commentaire et je redonne la parole. Là, aujourd'hui, on est bien réunis pour... Alors après, la présidente demande ce qu'elle veut, c'est son choix. Aujourd'hui, on est bien réunis uniquement pour une affaire de subvention exceptionnelle de 1 000 euros, comme je vais vous le proposer tout à l'heure. Il n'est pas... Je termine. Il n'est pas question de création de poste.
Non. Voilà. C'est une subvention de 1 000 euros pour
pallier là.
Pour faire les demandes auprès du Conseil général et régional et auprès d'autres instances et avoir l'appui ainsi de la commune.
Non, moi j'ai compris tout ça. Moi j'ai compris que c'était pour le départ. Pour organiser un groupe, peut-être lui faire un cadeau.
Non, pas du tout.
Ça doit être déjà fait.
Et à ce moment-là, je considérais que c'était plus à la commune et au conseil municipal de le remercier pour tout ce qu'il avait fait et faire un pot pour son départ.
Ça, c'est autre chose. On en parlera après.
Là, c'est autre chose.
Voilà.
Je vais en dire pour le départ.
C'est pour pallier, je suppose, si vous remplacez quelqu'un.
Je vais amener, si vous le voulez bien, quelques éléments concernant. Cette association, ce qu'il faut savoir, c'est que leur budget global est de 36 000 euros à l'année. Enfin, j'ai repris la demande de subvention qui avait été faite l'an dernier, mais elle est similaire cette année, d'après les éléments qu'on a pu avoir. Que les charges de personnel représentent rémunération du personnel avec les charges sociales, 30 000 euros
sur les 36 000.
Voilà. Et par contre, que la ville de Verberie, globalement, amène 50% du total. Donc, j'ai regardé aussi d'un autre côté que lorsque je regarde le nombre d'adhérents, sur les 69 adhérents qu'il y a, 18 sont de Verberie, 51 sont de l'extérieur. Et j'ai remarqué que les communes avoisinantes qui bénéficient de l'association font pas beaucoup d'efforts, puisque Saint-Vin ne donne rien, Saint-Tine donne 200 euros et Saint-Sauveur 150 euros. Alors, je... Voilà.
J'avais demandé, moi, à une époque, d'ailleurs, puisque plus vous avez d'élèves, plus ça vous coûte cher.
Oui.
Puisque ce sont des cours particuliers.
Comment, alors.
Hein, donc, à un moment, on avait dit, il faut se limiter à l'évolution de cette école de musique et qu'elle soit essentiellement pour les habitants de Verberie.
Alors, hein,
ça paraissait logique, étant donné qu'on ne pouvait pas mettre 50 ou 100 000 euros sur une école de musique. Donc, plus vous avez d'élèves,
plus ça va arriver.
Et plus vous allez avoir, plus c'est exponentiel. Et plus il va y avoir automatiquement plus de professeurs. Il y a un autre aussi. Il faut savoir que c'est quand même l'école de musique la moins chère, je ne veux pas dire de toute la France, mais de tout le département, puisque le montant et la participation, elle est de...
Le total des cotisations, c'est 6 100 euros.
Ça doit être 160 euros.
Ça fait 100
euros.
L'année.
L'année. Pour des cours de musique, c'est pas cher. Ce qui est à la croix, ça fait 450 euros.
Oui, c'est ça, ça n'a rien à voir.
Et on avait souhaité que ça continue, je refais un peu l'historique, que ça ne coûte pas cher et que toutes les familles puissent en bénéficier, mais il est souhaitable que ce soit les familles de Verberie.
Voilà, c'est pour ça que je voulais quand même. Voilà. Alors, lors des prochaines demandes de subventions, nous avons l'intention de rencontrer tous les présidents d'associations pour les demandes de subventions. Et en ce qui concerne l'école de musique, il faudra qu'on revoie avec eux la façon, peut-être, dont ils envisagent de voir les choses, parce que là, c'est pour cette année. Et il est évident qu'on ne peut donner qu'un accord pour 1 000 euros pour qu'ils puissent continuer à avoir quelqu'un. Mais aujourd'hui, ils ont un petit peu de trésorerie. Il est évident que dans les années suivantes, ça ira, comme le dit Patrick, ça va aller de plus en plus.
Est-ce que la cotisation pour les gens de l'extérieur est la même?
C'est la même partout. Donc peut-être que là, il y aura quelque chose à voir. Mais ça, c'est à discuter avec l'association au moment de la demande de subvention.
Ce qu'on voulait, c'est pour ça que je ne mélange pas l'expression d'une demande de création de poste. Alors vraiment, on n'en est pas là. Hein. Je vous le dis très, très franchement. Il s'agit en fait, ça a quand même été très rapide cette affaire-là, parce qu'il a saisi une opportunité. Il s'agit en gros de mettre l'impulsion qui leur continue au moins de fonctionner, d'avoir le temps de réagir et de voir tout ce qu'on vient de dire là, y compris de discuter avec nous. Donc le sens des 1 000 euros, c'est ça. Et de déclencher effectivement d'autres subventions en montrant que la commune de Verberie, on verra jusqu'où ça va. Mais il s'agit effectivement de les aider à poursuivre dans l'année. Il faut qu'ils fassent aussi une réflexion à leur niveau.
D'ailleurs, il est bien dit que toutes les communes seraient sollicitées et également la CCBA.
Mais la CCBA est déjà sollicitée puisque la CCBA verse déjà 2 500 euros.
Ouais. Voilà, 2 250 euros.
Hein?
2 250 euros.
Oui,
tout à fait.
Et je ne sais pas si c'est pour 2 500.
C'est 2250.
Bon, la différence n'est pas importante.
2250.
Ce sont sur toutes les écoles de musique, et c'est la seule association qui a une subvention. Hein, parce que c'est Béthizy. Une association culturelle. Et Béthizy, qui ne l'a pas demandé depuis 2 ans.
Si, on l'a voté.
Oui, mais elle n'a pas...
Donc pas sollicité, si, on leur a voté une subvention aussi, la dernière fois.
Oui, oui.
Ouais. Bon, c'est moi qui étais intervenu pour eux.
Mais je ne sais pas s'ils l'ont demandé. Hein.
Ah,
Non, ils ne l'ont pas demandé.
Ah bon, bon. Pour aller transmettre à Verberie.
Non, mais de toute façon, on ne sait d'ailleurs pas si sur l'avenir ces subventions perduront. Parce que c'est un autre sujet.
Ouais.
C'est par rapport des associations, c'est un autre sujet.
On ne l'abordera pas ici, mais effectivement. Madame Coulet, vous vouliez prendre la parole.
C'était la même. Que Isiane a suggéré, c'est-à-dire que je me disais que peut-être l'école de musique pourrait proposer une participation pour les enfants de Verberie et une plus élevée, puisque leurs communes ne font pas d'efforts.
Oui, non, c'est sûr.
C'est dommage
pour les enfants, la commune ou les adhérents.
Alors vous avez
extérieur. Ça sera revu ensuite.
Bah, on reverra.
Ça c'est. Mais là, c'est du domaine de l'association.
Il faut vraiment qu'ils conduisent une réflexion, que les inciter, leur ouvrir les fenêtres, leur dire, enfin leur ouvrir les axes. On réfléchir avec eux, mais c'est à eux de prendre les décisions.
On va les rencontrer. On va les rencontrer et on en parlera par la suite en commission finance avant de proposer.
La terre entière.
Non, c'est pas
la terre est petite.
C'est bien dommage.
On va le faire de toute façon. Là, il s'agit d'une subvention exceptionnelle. Donc, c'est bien dire qu'on n'engage pas l'avenir. C'est un coup de pouce dans des circonstances exceptionnelles. Voilà. Je vous propose d'en rester là. Et de toute façon, on aura le débat, peut-être pas le débat d'orientation budgétaire, mais sur les associations, les subventions des associations, on y reviendra. Et comme l'a dit l'adjoint finance, Patrick Stéphane, on va recevoir les associations une par une, leur président et leur trésorier. Donc je vous propose d'accorder une subvention exceptionnelle de 1 000 euros à l'école de musique de Verberie pour l'exercice 2014, d'inscrire ce crédit dans le cadre de la prochaine décision modificative qui sera présentée au cours d'une séance ultérieure. Voilà. Qui est contre ? Hein ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Ben, le reste. Hein. D'accord. Donc, 23 pour et 1 contre. 23 pour, non, j'ai dit une bêtise. Hein. Comment ? Il y a 25 votants. Hein. Depuis tout à l'heure, j'ai dit 23, mais là, il y a 25 votants avec les deux pouvoirs. Donc 24 pour, 1 contre. Bien, école de musique de Verberie. Deuxième partie. Alors là, on est plus sur l'aspect remerciement.
Sentimental.
Donc, la commune a été saisie d'une demande de l'école de musique de Verberie, et c'est vrai notamment de Lionel Rivière, pour donner un nom aux locaux qu'elle occupe au château d'Aramon. Donc, il propose le nom de Paul Vallée. Donc, Lionel Rivière m'a envoyé un petit texte concernant Paul Vallée. Paul Vallée est né en novembre 1914 et il est décédé le 22 mars 1999. Ancien directeur d'école à Avion, 59, Paul Vallée vient s'installer à Mourut, étant à la retraite. Il est rapidement sollicité par M. Bellaert, alors président l'avant-garde de Verberie, pour diriger la fanfare de l'époque. C'est ainsi que M. Vallée mettra en place les premiers cours et donc amorcera l'école de musique de Verberie. Multi-instrumentiste, très doué et passionné, il donna des cours de solfège, tambour, batterie, flûte, saxophone, clarinette. Impressionnant. Son instrument de prédilection, trompette, trombone, cor et tuba. C'est... Ah, là, c'est pas écrit. Mais bon, et cornemuse, si vous le dites. Il ne cessa d'innover, allant vers tous les styles de musique, créant même des spectacles à part entière avec toujours un esprit fédérateur. Il donnera non seulement le goût à la musique, mais transmettra aussi toutes les valeurs liées à la pratique collective, le partage, le respect, la discipline, la tolérance, trois petits points, en faisant de tous ses élèves de véritables citoyens. Il dirigea l'école de musique et l'harmonie de 1975 à 1998, soit un an avant son décès. Voilà. Donc, moi, quand je suis arrivé à Verberie, je l'ai connu, Paul Vallée, effectivement. Je vous propose de donner le nom de Paul Vallée aux locaux occupés par l'école de musique au château d'Aramon. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc là, 25, même... 26, non 25, 25 pour. Décidément. Nous sommes le 25 et nous sommes d'accord. Juste un petit mot par rapport à ce que disait M. Floury tout à l'heure. Justement, le jour, parce que Lionel Rivière m'avait contacté, il m'avait dit oui, il y a le conseil municipal le 25, donc on peut peut-être poser la plaque le 26. J'ai dit non, on ne va pas faire comme ça. On ne va pas faire comme ça, on va voter le 25, et si le conseil municipal l'approuve, on définira ensemble une date à laquelle vous reviendrez, et on posera la plaque en plein accord que vous soyez là. Et à cette occasion-là, pourquoi pas organiser un petit pot à cette occasion-là pour remercier M. Rivière de tout ce qu'il a fait à la tête de l'école de musique de Verdun, qui ne se montrera pas à niveau. Alors oui, alors on parlait de médaille de la ville, je ne sais pas si elle existe là, faut faire. Il y a une médaille de la ville qui existe.
Il y avait une médaille de la ville, mais est-ce qu'il y en avait encore?
Oui.
Et est-ce qu'il en reste encore?
Et la médaille de la ville de Verdurie, elle est très belle en plus.
Je l'ai plus. Lysiane, Madame Grosbon, est-ce que Lysiane, est-ce que tu pourrais me la montrer?
Ah ben, je peux vous la montrer. J'y tiens ma médaille. Elle n'a pas été. Il ne faut pas la vulgariser.
Hein.
Faut pas la
dire
à n'importe qui.
Pas.
Ah. Ah.
Ça va les. C'est la fonderie Macherey qui les a faites. Ils ont la maquette. J'avais tout dans. Oh là là, j'avais tout ça. Mais je veux bien vous montrer ma médaille.
Bon, je pense pas que l'octroi d'une médaille de la ville fasse l'objet d'une délibération. On va essayer de trouver cette médaille, mais si Lionel Rivière revenait, si on lui remettait la médaille de la ville, est-ce que vous y verriez quelque chose de qui ne soit pas correct? Pour exprimer ce que vient de dire Madame Grosbon. Oui, on ne la donne pas n'importe à tout le monde.
Oui, si c'est une reconnaissance.
Bénévole pendant combien d'années?
23 ans. Et d'une année, c'est une reconnaissance. Il ne faut pas la vulgariser. Il ne faut pas la donner à n'importe qui. Je maintiens. Je reste droit dans mes bottes. Non. Ah non, elle n'est pas. Ah non, non.
À 23 ans, elle pourrait prendre leur massif.
Et non, Patrick.
Monsieur Sauvage, on ne peut pas se permettre ce genre de.
Tu rigoles? Non, mais.
T'es bénévole.
Moi aussi, j'étais bénévole pour les gens de Verdurie. Ils me sont visités en dehors de mes heures.
Bien, je vous propose de revenir au conseil municipal.
On s'éloigne.
Point suivant de l'ordre du jour. Bibliothèque municipale, pardon. Alors, deux points concernant la bibliothèque municipale. Oui, j'y suis, presque. Oui, donc, concernant le prêt de documents images, effectivement, le conseil de la médiathèque départementale propose à la commune de mettre à la disposition de la bibliothèque municipale des documents images. Pour cela, il faut signer une convention. Qu'est-ce qui est demandé à la mairie en échange de ces prêts? Il lui est demandé finalement concrètement une seule chose, c'est faire l'acquisition de documents images, sachant qu'ils nous en prêtent eux, mais il n'est pas précisé le nombre. Donc on peut très bien acheter un document image, ça suffit, et on peut bénéficier des prêts du Conseil Général. D'ailleurs, c'est un peu ce qui. Enfin voilà, c'est une porte, c'est eux qui nous l'ont proposé. Hein. Donc ça permettra d'enrichir la bibliothèque de ce document, images, DVD et autres. Je vous propose donc de conclure un avenant à la convention précitée avec le Conseil Général, avenant que vous aviez dans la documentation transmise, et de m'autoriser à signer cet avenant. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, donc à l'unanimité, adopté à l'unanimité. La suivante, c'est un peu la même chose, même exactement la même chose, mais pour les documents sonores. La condition pour la commune est toujours la même, c'est de faire l'acquisition de documents sonores sans qu'il soit précisé le nombre. Donc je vous propose également de conclure cet avenant à la convention précitée avec le Conseil Général de l'Oise et de m'autoriser à signer l'avenant. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité, et la bibliothèque qui a déjà, je pense pour ceux qui n'y sont pas allés, allez-y, ça ne remet évidemment pas en cause et quoi que ce soit le travail de ceux qui ont passé leur temps avant et qui ont été bénévoles dans l'association. Après, il y a d'autres personnes qui arrivent, qui voient les choses autrement, Et allez-y aujourd'hui, vous verrez, la bibliothèque a un peu a changé, et il y a des choses qui s'y passent, et là, ça continue, ça va continuer avec des documents images, et avec des documents sonores. Donc, voilà, merci à toutes les bénévoles qui ont rejoint la bibliothèque municipale, et merci à tous ceux qui s'investissent beaucoup.
À tous les bénévoles, parce qu'il y a deux messieurs.
Pardon.
Ah bon ?
Je ne voulais pas du tout dire qu'il n'y avait que des dames. Hein. C'est, bon, j'ai mal parlé. Voilà, à tous les bénévoles. Et c'est très bien qu'il y ait des messieurs. Et d'ailleurs... Point suivant de l'ordre du jour. Bouquet provincial des archers. Donc la commune a été saisie par courrier reçu en mairie le 9 août 2014 par le comité de pilotage UNESCO d'une demande de soutien de la commune dans leur démarche de reconnaissance du bouquet provincial sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité selon la convention de l'UNESCO. La compagnie d'arc de Verberie a accueilli cette manifestation à plusieurs reprises. Alors, les dates exactes, j'espère que j'en
oublie
pas.
La dernière, c'était en 82.
Alors, 1902, 1906, 1929, 1982. Bon. Je peux vous lire le courrier que j'ai reçu. Bon, il n'est pas très long. Hein. Madame, Monsieur, la communauté des archers, soutenue par la Fédération française de tir à l'arc, a entrepris de constituer un dossier en vue d'inscrire le bouquet provincial sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, selon la convention de l'UNESCO. Elle espère transmettre ce dossier au ministère de la Culture fin octobre 2014, ce qui vous explique que ce soit à l'ordre du jour, afin qu'il soit sélectionné par le ministère de la Culture et de la Communication pour être présenté aux instances internationales. Pour assurer aux générations futures la transmission des pratiques, des traditions et du savoir-faire, mais également reconnaître ce patrimoine culturel mêlant tradition, modernité et esprit sportif, nous avons besoin de nombreux soutiens et en particulier celui des villes qui, par le passé, ont organisé un tel événement. C'est le cas de votre commune. La compagnie d'arc de votre ville a accueilli cette manifestation il y a plusieurs années et à ce titre, nous sollicitons votre soutien dans notre démarche de reconnaissance auprès de l'UNESCO. Nous sommes à votre disposition pour toute information sur ce dossier et pour faire part de tout élément vous permettant de mieux connaître la riche tradition du bouquet provincial. Je vous remercie, etc. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un peu le patrimoine de... Enfin, j'allais dire du pays, alors pas au sens du pays... Enfin, le pays compiénois aussi, d'ailleurs, mais le pays de Valois aussi, naturellement.
Les archers du roi.
Voilà.
Alors, tradition des archers du roi.
Donc, ce qui est patrimonial, moi, ça me semble important. Le deuxième point, c'est peut-être que si c'est inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité selon la convention de l'UNESCO, on aura peut-être des facilités à obtenir des subventions pour organiser le bouquet provincial et pourquoi pas à Verberie, et on l'espère.
Sachant que ça vaut 80 000 euros, ça coûte 80 000 euros à la commune.
Ce serait pour quelle année ?
Aussi. Les dernières études ont été faites il y a 4-5 ans.
Madame,
éventuellement le futur.
Madame Arnoux, vous voulez prendre la parole sur le sujet ou pas ?
On attend déjà d'avoir réponse de la demande qui pourrait être faite par l'association de Verberie, parce que pour l'instant.
La compagnie d'arc.
Et ce serait. Ils sont en pleine expansion. Cette année, il y a 4 inscriptions supplémentaires suite au forum des associations sportives. Et il y avait quelques personnes qui étaient encore en réflexion. Alors, le nombre total, je ne saurais vous dire, mais
plus de 20, je crois.
Ils sont en pleine expansion.
Ils étaient tombés très bas et ça repart.
Là, ça repart. Et surtout, ce sont beaucoup de jeunes qui arrivent. Il y a des enfants, mais il y a aussi des jeunes adultes.
Qui s'en occupait, c'était il y a eu une succession de présidents. On va peut-être pas refaire l'histoire de la compagnie d'arc, sinon que c'est patrimonial. Et ce que je vous propose, c'est d'apporter notre soutien à la demande d'inscription au bouquet provincial par un courrier qu'on adressera à ce comité. Voilà. Donc, du bouquet provincial des archers sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité selon la convention de l'UNESCO. Sachez que tous les archers de Verberie ont signé. Voilà, ce serait les moindres des choses.
Hein. Et c'est pour dans quelle année,
Non, alors là, le. Alors je répète et je répéterai après ce que je vous propose. C'est pour proposer de le mettre dans. C'est pour le transmettre ce dossier au ministère de la Culture fin octobre 2014, afin qu'il soit sélectionné. Donc c'est en gros pour 2015, quoi. C'est pour qu'il soit reconnu comme patrimoine immatériel, etc., etc., de l'UNESCO en 2015. Mais c'est pas, ça ne veut pas dire qu'on fera le bouquet provincial en 2015. Nous, c'est plutôt dans quelques années. Hein.
Provisionné.
Voilà. Je vais tousser. Bon, sur le soutien apporté, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, à l'unanimité, nous apporterons notre soutien à cette demande. Bien, c'était le dernier point pour les délibérations. Je vous propose maintenant donc les éléments plus informatifs qui sont, premier point, point sur les nouvelles activités périscolaires et le budget prévisionnel 2014-2015. Donc je rappelle que les nouvelles activités périscolaires ont démarré quasiment le lendemain, pas tout à fait, deux ou trois jours après, de notre dernier conseil municipal. Qu'à l'époque, nous avions déjà montré, du moins l'adjoint aux finances avait montré un budget prévisionnel, mais que nous ne connaissions pas le nombre de participants et qu'il restait donc forcément des choses à préciser dans ce domaine. Donc là, on va faire le point en deux étapes. Je vais d'abord donner la parole à l'adjoint aux affaires scolaires sur le point non financier, j'allais dire.
Bien, mais oui, donc en effet, la dernière fois qu'on s'est vu, il n'y avait que 54 enfants qui étaient inscrits. Donc à quelques jours du premier vendredi, c'était un petit peu compliqué. Mais on se doutait un petit peu que les parents aussi avaient tardé pour plein de raisons. C'était encore les vacances, c'était les vacances scolaires, c'était pas encore bien défini. Donc je pense que ça a été un petit peu compliqué aussi pour eux à se positionner. Et puis on a été rapidement avec Sylvain Dubois, donc directeur de la MJC, on a vu que de jour en jour ça progressait pour arriver à 187 enfants, donc au premier vendredi. Donc le premier vendredi, évidemment, ça a été un petit peu, chacun, fallait que chacun trouve un petit peu ses repères, hein, ce qui est normal, ça s'est relativement bien passé. Et puis le deuxième vendredi, et puis là le dernier vendredi, où ça y est, je pense que c'est quelque chose qui roule plus ou moins, donc on a fait des ajustements entre deux. Juste donc pour les maternelles, donc on a une cinquantaine de maternelles. Les maternelles donc font la sieste au retour de la cantine ou au retour de chez eux. Ils font la sieste pour les plus petits. Pour les moyens et les grands, il y a un temps de repos pour celui qui le souhaite. Et ensuite, les enfants sont dirigés vers des ateliers avec donc notamment Marie-Françoise Ducrot, qui est notre ludothécaire, en formation, et donc qui s'occupe d'eux avec des petits jeux, etc. Et il y a également les bénévoles de l'association Lire et Faire Lire, qui donc leur lit des contes, les fait participer. On a mis en place aussi une récréation aussi pour les enfants, donc entre deux. Et nous avons donc le personnel communal, donc deux ATSEM qui, pareil, s'occupent des enfants pour le post-toilette, etc., etc. Donc voilà pour les plus petits. Et puis pour les plus grands, donc pour les primaires, ils sont donc pris en charge par les animateurs que vous connaissez maintenant. Et donc les activités sont notamment les activités sportives. On a de la musique, il y a un atelier cuisine, il y a du théâtre. Il y a le CPIE qui intervient donc sur l'environnement.
Logique, informatique.
Il y a de l'informatique pour les enfants. Il y a des ateliers manuels. Enfin, c'est vraiment l'atelier radio. Donc, c'est vraiment très très varié. Les retours sont assez positifs. En tout cas, quand j'interroge quelques parents, c'est quand même assez assez positif. Donc voilà, un petit peu le bilan.
Juste une précision, c'est que le plus complexe dans cette affaire-là, j'avais un peu oublié. Je pense que j'étais pas le seul. Ce sont les maternelles à gérer. Vraiment, là, c'est pas. Laurent a dit tout à l'heure, ils arrivent, ils dorment. Donc
oui,
on a l'impression
imagé,
que
c'est...
tout se passe bien.
Sur le terrain, ça se passe bien, mais c'est totalement plus complexe.
Je pense pas que ce soit
distincts que ça, les maternelles.
Non, pas du tout.
C'est l'aspect complexe. C'est l'aspect complexe. Bon, les ATSEM sont impliqués dans cette affaire-là et ça rend grandement service, hein, faut le dire. Il y a également deux monitrices de la MJC qui s'est présente, donc Marie-Françoise Ducrot qui a été citée tout à l'heure, et des animatrices de l'association Lire et Faire Lire. J'ai oublié personne. Voilà. Tout de suite, les primaires, ça a accroché assez fort, tout de suite, après le cafouillage de l'accueil, le premier vendredi. Ça a accroché très fort sur les activités, ça se passe vraiment bien. Bon, les maternelles, ça se passe bien aussi, mais maintenant, ça se passe bien. Et c'est plus délicat quand même, hein, c'est plus fragile.
La difficulté, c'est que les enfants étaient très fatigués aussi. Donc, les enfants étaient très fatigués, donc le fait de les amener d'un endroit à un autre,
Alors, évidemment, je ne m'exprime pas sur la qualité de la réforme ou quoi que ce soit. Nous, on était dans un cadre, on a appliqué au mieux de ce qu'on pensait faire. On voit qu'il y a des enfants quand même, surtout en maternelle, qui sont les enfants qui repartent le vendredi après-midi des nouvelles activités périscolaires au périscolaire, parce qu'il y en a qui retournent au périscolaire, il y en a un certain nombre qui pleurent, quoi. Et pas parce qu'ils ont été maltraités par les animatrices, mais ils n'en peuvent plus. Bon, voilà, ça c'est une aparté. Mais nous, on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait dans le cadre qui nous était défini. Donc je vous propose maintenant la partie moins attrayante, c'est la partie financière.
Donc je vous ai remis à chacun... Le prévisionnel arrêté à ce jour, puisque je suis allé ce matin à la Maison des Jeunes retirer les chiffres arrêtés aujourd'hui. Donc en fait, il y a 182 enfants inscrits. Il y a eu des enfants qui ont été retirés. 182, exactement.
Parce qu'il y en a qui ont été retirés, les petites maternelles.
Et alors, le coût du personnel pour la mairie, il n'a pas changé, les 8020 euros. Le matériel, ça n'a pas changé, 1000 euros. Les animateurs MJC, précédemment, nous en avions 6, ils sont passés à 7, puisqu'il a fallu un animateur de plus pour les maternelles. Donc on est à 12 096 euros. Il y a un coût de gestion administrative que la MJC va nous refacturer, puisqu'il y a quand même un travail assez lourd derrière, de mise en œuvre des dossiers, de la programmation, de la gestion, de savoir si les enfants sont là ou pas. Donc il a été estimé à un dixième du temps de travail de la personne qui gère ça, ça fait 1816 euros. Achat de consommables, ça c'est pour tout ce qui est papier, etc. Matériel éducatif, ça rentre dans le cadre de l'atelier cuisine, en fait, puisqu'il faut qu'ils achètent pas mal de choses dans le courant de l'année.
Il y a eu aussi des achats pour la partie musique.
Partie musique, ça a été mis dans notre matériel 1000 euros, et en fait, on a dépensé que 500 euros aujourd'hui.
D'accord, pardon.
L'animatrice informatique qui est reprise par la MJC, c'est 2150 euros. Le CPIE, c'est gratuit. La PSLO, 3578. L'Association musicale de la Croix, 5468. RVM, 3400. Et Association Lire et Faire Livre, ça, c'est les frais de déplacement des bénévoles, 444 euros estimés.
Excuse-moi, ce ne sont pas les frais de déplacement, ce sont les frais d'inscription à l'association.
D'accord. En recette, on a donc... Sur la base de 182 enfants, donc une perception de la CAF à hauteur de 0,50 centimes de l'heure, donc basée sur 2h30 de l'après-midi, puisque la demi-heure de passation entre les ateliers n'est pas reprise par la CAF. Donc ça représente 8190 euros. Donc il y a 50 parents non imposables et 132 parents imposables. qui représente dans un premier temps 2500 euros pour les personnes non imposables et 19 800 euros pour les personnes imposables. Donc les recettes de cette activité sont de 30 490 euros pour un coût global. Donc en intégrant le coût du personnel de la mairie de 39 172 euros. À ça va venir s'ajouter donc, le fonds d'amorçage qui nous est versé par l'État à hauteur de 50 euros par élève inscrit aux écoles, donc qui représente 21 150 euros. Donc ce fonds nous sera versé en plusieurs fois, mais ce ne sera pas, ce n'est qu'un fonds d'amorçage. Donc aujourd'hui on ne sait pas s'il sera reconduit l'an prochain. Donc, globalement, le fonds d'amorçage nous permet de couvrir deux années de NAP, quoi. Donc, c'est deux ans, deux ans.
La troisième année, ils vont changer.
On a 20 000 euros de déficit, la troisième année.
La troisième année, on aura 20 000 euros de déficit.
Alors, pourquoi 20 000 euros de déficit ?
Non, on aura 9 000 euros.
Pourquoi vous dites 20 000 ?
8 000, 6.
Parce que là, ça coûte 39 000, donc ça fait 40 000, grosso modo.
Ouais. Hein, oui,
oui. En volume. Et là, vous avez 51 000. Bon, donc grosso modo, on va avoir 10 000 euros d'excédent sur cette année.
Non. Aujourd'hui, les recettes sont 30. Enfin, quand on ne tient pas compte, c'est pour ça que dans le tableau, j'ai mis à part le fonds d'amorçage.
Oui, mais il faut compter le fonds d'amorçage.
Moi, je regarde les années qui vont venir. C'est-à-dire que le fonds d'amorçage va couvrir deux années et demie à peu près, mais par la suite, on n'aura plus ce fonds d'amorçage. Donc, pour savoir exactement ce qui va avoir à être payé par la commune, c'est bien le différentiel entre les deux.
Oui.
C'est pour ça que j'ai fait la synthèse entre les deux.
C'est le chiffre qu'il faut retenir.
Si la réforme continue.
Voilà.
Oui,
mais ils vont voir qu'ils ont
fait Madame Poulet,
vas-y. Oui, Madame Poulet.
Par 15
euros
par enfant, c'est qu'en 2, 3, ça fait beaucoup.
Je comprends.
Alors,
ouais.
Mais si vous mettez les enfants en garde chez une nourrice, combien ça va vous coûter? Voilà.
Il faut aussi
voir ça. Enfin, je veux dire que ça fait 76 centimes de l'heure.
Ouais, c'est bien. Mercredi matin,
c'était la même chose. Puisqu'on a.
En fait, ce que je me dis, c'est que ça
va basculer. Ah oui, c'est sûr.
Si on mettait pas en cause, je veux dire, la qualité.
Bon, c'est déjà un bon point.
D'un autre côté, moi, dans mon raisonnement, on est obligé. Comme ça, mais on aboutit quand même du coup à une sélection, on est bien d'accord.
C'est... Plus ou moins, bien sûr.
Avant, ces enfants-là, puisque. Le mercredi matin, ils allaient à la SLH, je suppose.
C'est
la SLH. Donc il y avait un coût aussi. Donc il faut, voilà, il y a du plus, du moins. Alors je ne dis pas que ça compense totalement.
Il y a un élément également.
15 euros, c'est deux paquets de cigarettes sur un mois.
Ouais, non.
Alors,
c'est toujours trop cher. Aujourd'hui,
attendez, un par un.
Il y a un élément également que voilà, on a mis dans la balance aussi avec Sylvain Dubois lorsqu'on a discuté du prix. C'est aussi que lorsqu'on prend l'avis d'imposition, il y a les personnes qui ont plusieurs enfants, déjà des parts qui font baisser le montant de l'impôt. Donc c'est vrai qu'on considère que c'est à travers cette feuille qu'il y a déjà l'abattement. Donc c'est vrai que si on a déjà beaucoup d'enfants et qu'on est encore imposable, c'est le système français qui est comme ça. Malheureusement, on considère qu'on est. Voilà. Bon. Donc, c'est... Alors, on peut ne pas être d'accord avec ce. On peut ne pas être d'accord avec ce raisonnement. Je rejoins tout à fait. Mais en tout cas, ça fait quand même partie du calcul qu'il faut prendre en compte.
Il faut aussi savoir qu'à Compiègne, par exemple, il n'y a rien de fait pour les enfants. On leur demande 1 euro de l'heure.
Pour de la garderie.
Et que, on amène, nous, quand même, quelque chose aux enfants, un plus. Moi, je suis allé voir les enfants pendant leur activité, le vendredi après-midi. Bah, franchement, je n'avais pas l'impression que les enfants s'ennuyaient. Et au contraire, ils découvraient certaines choses. Quoi. Enfin, après,
Pardon ?
Juste une autre information, si c'est possible. On a aujourd'hui 182 enfants d'inscrits. Notre capacité maximale est de combien?
Les prévisions étaient quasiment à 220.
200.
Autour de 200.
Honnêtement, je suis content de ne pas avoir atteint les 200.
Oui, je comprends.
Bon. Et ensuite, le problème quand même là, c'est une expérimentation pour un an, hein, je le rappelle. Et l'an prochain, en septembre 2015, on va avoir la cantine quand même en plus, donc qui va aussi faciliter, nous donner un espace supplémentaire. Si la réforme est maintenue, enfin, ouais, ça dépend pas de
donc
nous.
Donc on peut dire aujourd'hui que vous n'avez pas dû refuser personne.
Non. Non.
Non. Ok.
Non.
Il n'y a personne qui est assis sur le carreau parce qu'il y a une faute
de place.
Non, non. Voilà, à titre informatif, est-ce qu'il y a d'autres questions sur les nouvelles activités périscolaires? Bon. Rien n'est gagné, il faut continuer l'effort chaque jour, mais bon, c'est plutôt bien parti. Et quand je vois les chiffres cités par d'autres communes au niveau financier, je me dis qu'on ne s'en est pas trop mal sorti. Hein. Bon. Point suivant. Donc, le port de Verberie, donc une discussion, l'avenir du port de Verberie. Donc, je vous ai envoyé, vous avez eu un papier que je vais relire là, pour que tout le monde est. Donc, concernant le port de Verberie, par arrêté du 19 février 1970, l'État a accordé pour 50 ans à la commune de Verberie une concession ayant pour objet l'établissement et l'exploitation d'un port situé sur la rive gauche de la rivière Oise. Ce port comprend un quai de 90 mètres de longueur, construit en 1936, un terre-plein de 30 mètres de profondeur sur 90 mètres de large, une desserte routière. Ce quai a fait l'objet au début de l'été 2011 d'un effondrement sur une longueur de 20 mètres et il a également été constaté un affaissement de la berge sur une profondeur de 10 mètres environ. L'accès à la zone d'effondrement a été sécurisé par une clôture. Il n'y a pas eu d'autres travaux réalisés depuis cette date. À la suite de l'analyse géotechnique, Voies Navigables de France, gestionnaire de la voie d'eau, affirme que le devenir du quai de Verberie devra concerner l'ensemble de l'ouvrage, soit le linéaire de 90 mètres, et ne pourra consister en une simple purge ou consolidation partielle et même totale. Voies Navigables de France rappelle en outre que ce quai, de par sa structure, représentait une défense de berge qui n'est plus assurée aujourd'hui. Il y a donc une certaine urgence à entreprendre les travaux, ce sont les paroles de Voies Navigables de France, de consolidation pour éviter un accroissement des désordres. La convention de 1970, article 5, qui expire en 2020, février 2020 exactement, impose à la commune de Verberie le maintien en l'état des installations et à son échéance, leur restitution en l'état initial. Compte tenu des projets en cours sur l'Oise et dans la région, réalisation du canal Seine-Nord-Europe et son corollaire Mageo, VNF se déclare cependant prêt à analyser toutes les solutions de réaménagement du quai, y compris un changement de destination. Les propositions devront cependant s'inscrire dans le cadre plus global des actions mises en place par VNF visant au développement de la voie d'eau. Parce que pour aller un peu plus loin, en clair, VNF, c'est celui qui contrôle tout ce qu'on fait sur le port au titre de la concession. Vous ne pouvez pas faire des travaux sans qu'il valide ces travaux et vous donne finalement l'autorisation de les conduire. Bon. Donc, dans le document qu'ils ont rédigé, je vais revenir après un peu sur l'historique tout à l'heure, plusieurs scénarios d'aménagement seraient a priori possible, c'est ce qu'il est écrit à un moment donné du document qu'ils avaient écrit. Réaménager un quai destiné au transbordement de marchandises comme il l'était avant l'effondrement. Aménager une halte fluviale pour les unités de petite plaisance, donc plaisance privée. Aménager un quai pour les paquebots, bateaux, hôtels, croisières. Et reconstitution d'une simple berge. Alors quelques éléments supplémentaires quand même. Je rappelle donc que ce port a été utilisé par les transports Saint-Nicolas et ensuite par une société qui s'appelle STDN. Il a été utilisé par cette société STDN sans qu'il y ait de contrat d'engagement entre la mairie de Verberie et la STDN et ça a été une utilisation à titre gracieux. Il n'y a donc eu aucun fonds de réserve de constituer pour réparer le port ou quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, on a notre budget quelque part, point final. Donc début 2011, c'est l'effondrement du quai. Mai 2012, il y a donc une étude géotechnique par une société spécialisée et sur les origines probables de l'effondrement. Donc il s'exprime en disant que il est possible que le mur, je pense qu'il parle du mur vertical, enfin celui qui servait de limite au port, avec l'eau, que le mur soit fondé superficiellement. Or, ce type de fondation n'est pas adapté au contexte géologique. Donc en gros, en 1936, on aurait peut-être touché quelque chose qui n'était pas très sain. Enfin, c'est comme ça que j'interprète maintenant.
Il y avait des moyens en 1936, n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui.
Tout à fait. Le stockage de matériaux en bordure de quai a créé une surcharge. Donc ça, c'est ce qu'ils indiquent. Ils indiquent aussi qu'il est possible que l'ouvrage... ils indiquent justement qu'il est possible que l'ouvrage ait une structure insuffisante pour reprendre les charges qui ont été déposées en tête ces dernières années. Et ils rappellent aussi qu'à cet endroit, l'Oise décrit un virage vers l'est. Le quai est donc situé à l'extérieur de ce virage. Il est donc possible que le courant ait avec le temps progressivement saper l'assise des fondations, phénomène naturel, ce phénomène ayant pu être amplifié par les différents travaux de dragage des fonds de l'Oise, qui sont en général conduits, au moins en tant que maître d'ouvrage ou maîtrise d'ouvrage, par VNF. Voilà, donc il était indiqué quelque part un peu plus loin, toujours dans ce même rapport, s'il est envisagé de réaliser un enrochement, il est possible de limiter la reprise à la partie du quai qui a déjà bougé. En cas de propagation des désordres sur le reste du quai, il sera toujours possible d'étendre la solution d'enrochement. Bon, c'était indiqué à un moment donné.
L'enrochement, c'est vraiment aussi le moyen technique minimal.
On est d'accord.
C'est vraiment le strict minimum en termes de technique.
On est d'accord. Donc, il y a eu un certain nombre de devis qui ont été réalisés. D'études. Donc en août 2012, il y a une étude d'opportunité sur le développement touristique fluvial et terrestre du site du port de Verberie par Grelais Conseil, qui a été réalisée. En août 2012, il y a eu une étude de faisabilité technique pour la réfection d'un quai port de Verberie par FR Environnement Nautique, donc qui nous indiquait que pour la réfection complète du quai, avec création d'une halte fluviale, le coût se montait hors taxe à 675 000 euros et TTC 805 000 euros. En septembre 2012, donc il y a eu une réunion à la mairie de Paris avec VNF. VNF indiquait que le quai continuait de se détériorer et qu'en cas de crue, la partie qui est déjà effondrée pouvait partir à l'eau, et demandait déjà à s'inquiéter des risques avant l'hiver. Donc on était en septembre 2012. Je signalais également que c'est la commune qui est responsable du quai. Autrement dit, moi ce que j'ai compris, c'est que si le quai va au fond de l'eau, enfin, la partie émergée, le dragage, c'est à notre charge.
Une réunion à Paris ?
Non, une réunion avec Voies Navigables de France qui s'est déroulée, je pense, à la mairie de Verberie. Oui, Madame Grosbon.
Je dis, est-ce que Voies Navigables de France participe ?
Financièrement ?
Oui.
Je vais en parler après. La réponse est déjà non.
Je pensais qu'il participait.
Ça a changé, parce que, d'abord... Pour en revenir aux études. Une étude, il était bien évident qu'on n'allait pas refaire un port, puisqu'il était prévu, lorsque le port de Longueuil ouvrait, Voies Navigables de France ne souhaitait pas qu'on continue le port de Verberie.
Alors c'est la discussion qu'on va avoir après sur les différentes solutions avancées.
Et ça, c'était Voies Navigables de France qui souhaitait qu'il n'y ait que le port de Longueuil. Qui a coûté 10 millions d'euros, laissé sans commune mesure avec le port de Verberie. Mais ensuite, ils nous ont demandé, parce qu'eux ont fait une étude aussi, ils nous ont demandé de faire une étude de sol et de faire des piquetages. Or, on a redemandé à Voies navigables de France à quelle profondeur ils voulaient que ces études soient faites. Je ne sais pas après si vous avez eu les réponses, mais moi, je ne les ai jamais eues. Or, est-ce qu'il fallait faire une étude de sol à 2 mètres, à 5 mètres, à 10 mètres? Pour l'instant, moi, lorsque je suis parti, nous n'avions toujours pas la réponse, puisque Voies navigables de France voulait qu'il y ait cette étude, en plus des autres études qui avaient déjà été faites.
Alors, ils ont renoncé à cette étude. Comme on leur a redemandé, en fait, la profondeur, à la fin, faute de profondeur, ils ont renoncé à l'étude.
Ensuite, il était question, puisque tout le monde s'était accordé à l'époque à faire une halte plaisance, Voies navigables de France, enfin, les partenaires différents, et non pas une halte paquebot, puisqu'il va y en avoir une à Compiègne, et que là, ça se nécessite un quai, et Compiègne doit en avoir une de halte paquebot, et tout ça est inscrit au niveau du développement touristique du pays compiègnois.
Alors, sur ce point-là, pour Compiègne, bon, on va en parler tout de suite, du paquebot ou du bateau croisière, parce que c'est de ça dont on parle. Aujourd'hui, il y a effectivement Longueuil-Anel qui est en train de mettre en service un bateau croisière. Ça devrait, je crois que l'affaire est partie, ça devrait intervenir dans quelques temps. Et effectivement, il est prévu que ce bateau croisière, c'est ce qui est prévu aujourd'hui, ils ont eu des aides européennes pour le faire, navigue quelque part entre Noyon et Compiègne et s'arrête au niveau de Compiègne. Voilà. Voilà où on en est sur cette affaire de paquebot. Donc là, on vient d'évoquer deux solutions parmi les quatre qui étaient envisagées. La première, c'était de refaire un port de commerce, quelque part. C'est vrai que, bon, outre l'avis de VNF, ça n'a pas grand sens d'avoir un port à Longueuil-Sainte-Marie et un port ici. Fin.
Et puis on avait limité parce que c'était en plein centre-ville et que ça collait, c'était bruyant, les décharges.
Voilà.
Enfin, de toute façon,
c'était plus adapté.
C'est plus adapté par rapport à la vie. Et maintenant, VNF avait dit, nous pourrons participer à hauteur, parce que c'est l'État, à hauteur de la montant de subvention qui ne reste pas défini. Hein, bon, il n'avait pas défini le montant de la subvention, mais la porte n'était pas du tout fermée, et il était question qu'ils apportent leur soutien à un projet de halte nautique. Bon, bien entendu, ça nous permettra aussi, par rapport au département, par rapport à la région, puisque c'est inscrit au schéma touristique du pays compiègnois, d'obtenir des subventions et de la région et du département.
Bon, alors sur le point que vous indiquiez, là, ça me revenait concernant mince. Vous pouvez me reciter le point que vous avez cité juste avant, là. Il y a eu les subventions, et avant, vous parliez de... Comment ? Les nuisances sur la ville, oui, mais c'était pas le point, c'était pas ça le point sur lequel je voulais revenir. Bon, ça, sur l'engagement de VNF dans les subventions. Moi, j'ai vu depuis les élections, j'ai vu VNF une fois, je leur ai posé clairement la question du financement. Ils m'ont répondu, on peut vous accompagner, mais pas financer.
Non, là, c'était, bon, moi, j'étais pas seul à cette époque. Vous me direz si j'ai entendu, j'ai mal entendu, mais c'était bien un apport de subvention. J'ai demandé si on pourrait...
Non, mais je ne remettais pas en cause ce que vous venez de me dire.
Non.
Je dis simplement que manifestement, ils ont changé d'avis.
Ce qui ne nous arrange pas beaucoup.
Non, je dois reconnaître.
Voilà, on peut vous accompagner, on peut conseiller. Et ils m'ont présenté l'aspect port de plaisance, pour tout dire, comme une opportunité. Quand je leur ai dit, c'est une si belle opportunité, je pense que vous allez aussi investir. Et là, ils m'ont dit, nous, on est là, on peut vous conseiller techniquement, mais on en restera là. Voilà. Ça, c'était en juin.
On pourra aussi demander, maintenant, puisqu'il y a le FEDER, on pourra aussi demander une subvention par rapport à l'Europe. Puisque c'est tout nouveau, c'est sorti il y a 2 mois.
Alors... Bon, je continue sur les points que je voulais annoncer. Concernant effectivement le fait que la partie qui est décrochée puisse rejoindre le fond de l'eau, VNF souligne à plusieurs reprises qu'il y a une certaine urgence à entreprendre les travaux. Et donc, c'est leur avis technique. Moi, j'avoue que voilà, je ne suis pas technicien de l'eau, mais je me dis que si ça part au fond de l'eau, en particulier s'il y a une crue, parce que j'ai cru comprendre que c'était la menace essentielle, c'est que l'eau monte et qu'à ce moment-là, la partie parte avec la crue, quoi, du fait du plus grande vitesse de l'eau. Donc dans ce cas-là, on serait vraiment très très mal.
D'autant plus que les arbres aujourd'hui enracinent.
Oui. Bon. M'avance pas là-dessus. Moi, je regarde ça. Et je me dis que même si c'est pas un volume important, comme vous le dites, le dragage de l'Oise, ça va nous coûter bonbon. Pardon pour l'expression. Alors, selon VNF, la réhabilitation est à la charge de la commune, qui doit nécessairement concerner l'ensemble de l'ouvrage. Voilà, assurer le rôle de défense des berges requis et être réalisé rapidement. Voilà, que cette réhabilitation peut modifier la destination du quai pour s'inscrire dans un contexte plus global d'évolution des infrastructures fluviales, régionales et du développement de plaisance. Voilà, donc ils énuméraient les quatre possibilités. Ensuite, et concernant la halte fluviale avec pour les unités de petite plaisance privée, voici comment ils s'exprimaient en fait, dans leur conclusion. Compte tenu des obligations du concessionnaire et de l'accompagnement par VNF du développement du tourisme fluvial, l'option qui consiste à envisager une halte fluviale est sans doute un compromis sensé, conforme aux demandes du marché, cohérent avec les projets existants et conforme aux contraintes techniques du site. J'avoue que quand je lis cette phrase alambiquée de la langue française, que l'on me dit qu'elle est sans doute un compromis sensé, je commence quand même à avoir des sueurs froides. Voilà.
Il n'y a pas de doute.
Je reconnais que je ne l'ai pas lu comme ça.
Ah non, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Sans doute, oui, c'est notre compétitif. Il n'y a pas de doute possible.
Sans doute ou sans aucun doute.
Oui. Non, je pense que ma lecture, je suis désolé, je pense que ma lecture est plutôt la bonne, d'autant plus que j'ai quand même lu toute l'analyse qui est faite. Et dans l'analyse qui est faite, au moins qu'on puisse dire, c'est que ceux qui ont rédigé l'analyse ne sont pas très optimistes. Et en fait, ils ont une conclusion que je trouve un peu décalée par rapport à l'analyse. Mais je vais y venir sur les éléments de l'analyse. Donc, à un moment donné, il était marqué que la commune de Verberie a prévu un budget de 680 000 euros hors taxes environ. Ça, c'est dans le document de VNF, ce qui correspond aux estimations dont on a parlé tout à l'heure par le cabinet France Nature. Bon, aujourd'hui, a priori, cet argent n'est pas là. Je continue. Alors sur le calendrier, il parlait des travaux et il disait « il vaudrait mieux les effectuer en 2013 pour effectuer des désordres supplémentaires ». Donc on est en 2014, donc la situation ne doit pas s'être arrangée. Ensuite sur justement le site La Halte Plaisance. Alors moi ce que j'ai retenu, et je tiens les conclusions, le document de VNF, qu'on peut vous envoyer de manière numérique hein, pour ceux qui le désirent. Ceux qui veulent voir le document papier peuvent venir le consulter à la mairie. J'ai retenu. Le site de Verberie est loin d'être idéal. On parle pour une halte plaisance. Circulation intense à proximité, qui pour un plaisancier n'est pas terrible. Donc, trafic des péniches qui s'amplifiera si le canal CSNE, le canal Seine-Nord Europe et Mageo sont réalisés. Donc conflit d'usage possible. Et la zone de Verberie sera une zone d'alternat, donc on ne circule pas dans les deux sens en même temps, ce qui est une contrainte pour les plaisanciers. Ensuite, on ajoute qu'on se trouve dans un environnement sonore assez bruyant, non seulement du fait de la circulation, mais aussi du pont du TGV proche, de la manutention de produits au silo. Bon, il n'y en a peut-être pas tous les jours. Et puis on dit aussi que la rive droite de l'Oise, dans ce bief en aval de l'écluse de Verberie, est une suite d'installations industrielles et portuaires, STDN, Silo, Agora, BIC, Enercon, Monnier, et puis maintenant on a le quai Lafarge qui va probablement se construire, ce qui, de l'avis même de certains représentants de plaisanciers, relativise l'intérêt touristique du quai de Verberie. dit tel que c'est. Ensuite, on me dit, alors après on tombe sur des affaires que, où j'ai peut-être pas tous les éléments, les différentes études consultées ne prennent pas en compte les besoins en matière de zone d'attente pour, en matière de zone d'attente demandée par les opérateurs pour les unités chargées de matières dangereuses. Bon, j'espère que ça ne sera pas sur Verberie. Bon, on nous parle ensuite au niveau des bateliers de, d'autres exigences. On ajoute les plaisanciers, c'est page 52 du rapport de VNF, évitent les haltes où l'accostage est trop haut, difficulté pour sortir du bateau, où il n'y a pas d'eau ou d'électricité, où l'environnement est ressenti comme peu sécurisant, ou si le passage des péniches et qu'on voit secoue trop le bateau, ce qui sera le cas à Verberie. Alors c'est ce qui est écrit dans le dossier. Bon, on ajoute qu'il y a une absence de site touristique majeur à Verberie. C'est clair que nous, notre tourisme, c'est plutôt un tourisme, c'est les étangs, c'est le tourisme vert. On peut encore ajouter qu'il y avait un tas, alors ça s'est peut-être diminué depuis, mais tout le monde voulait faire des haltes fluviales un peu dans le coin. Et dans les aspects intéressants, moi, à la lecture, et je vous donne le dossier, hein, vous le lisez vous-même, j'ai retenu l'aspect intéressant de halte fluviale. La seule chose, c'est que j'ai retenu la proximité des pistes cyclables.
Et la proximité du centre-ville. Des commerces. Et des commerces qui est alors, extrêmement important pour une halte nautique. C'était un des grands intérêts de VNF à l'époque. Ils disaient, c'est intéressant. Bon, je vois que...
C'est peut-être moins intéressant compte tenu du contexte. Ensuite, il faut savoir que les plaisanciers, s'ils viennent, de toute façon, le stationnement sera gratuit, parce que c'est ce qui se fait, et puis c'est ce qui est marqué dans le rapport. Il y a donc, alors, on nous dit même, toujours dans le même document, hein, peu de retombées pour les commerces. Ensuite, on nous parle de la gestion des déchets, bon, bah oui. Et on nous dit qu'il n'y a aucun retour sur investissement à attendre, excepté un retour sous forme d'image pour la ville. Voilà. Page 54 du rapport de VNF. On ajoute qu'en outre, l'évolution du nombre de plaisanciers est incertain, contexte économique, mauvaise connaissance de la situation actuelle, même si l'on peut estimer qu'il y a un lien, un potentiel de touristique en lien avec le fluvial. Voilà ce que moi j'ai noté là-dessus, et chacun peut se faire son opinion. On peut envoyer le dossier à chacun pour qu'il le lise. Donc je trouve que le contexte a quand même beaucoup de bémols et que pour Verberie, dans tous les cas, il ne faut pas en attendre. Un retour sous forme d'image, oui, mais il ne faut pas en attendre un retour sous forme financière. Hein. Ce n'est pas avec le port qu'on va faire des bénéfices, avec la halte de plaisance qu'on fera des bénéfices.
C'est un peu paradoxal parce que là, dans le rapport, ils disent que a priori, il y a beaucoup de points défavorables. Et en début de rapport, ils disent que ça peut être intéressant.
En conclusion, c'était en conclusion.
La première étude était un rapport favorable. ça date de quand, ce rapport-là ?
C'est le rapport de décembre 2012 de VNF, rapport définitif sur la concession de Verberie. C'est un rapport qui fait une centaine de pages, 100 ou 150 pages. Là, je n'y étais pour rien.
Ça vient.
Est-ce que vous avez connaissance de ce rapport ?
Non, j'ai dit une centaine de pages. Là, c'est celui qu'on m'a transmis. Hein. Ah non.
Si. Moi, je n'ai jamais eu ce rapport.
Oui.
Oui, j'ai le rapport du bureau d'études. Attendez. Il y a eu le rapport qui a été fait par un bureau d'études qui nous avait demandé de faire pour évoluer, pour savoir ce qu'il fallait faire. Bon.
Ça, c'était Grelais.
Oui, le rapport Grelais. Et ensuite, ils ont dit, il y a un rapport d'un bureau d'études, mais maintenant, c'est bien, mais il faut qu'on fasse le nôtre. Bon. Chose, dit bon, faut que vous fassiez le vôtre, mais on n'a jamais eu le rapport, nous.
Ah bah, moi.
C'est pas le rapport de Grelais, ça, c'est le rapport de VNF. Nous l'avons jamais eu.
Non, pour moi, l'étude Grelais, elle est d'août 2012. Elle est de août 2012, celui-là de décembre 2012. Ouais, hein, on a bien, j'ai lu la même chose. Hein. Mais je le vous transmets. Hein.
Juste un petit élément aujourd'hui, les différentes agglomérations, que ce soit l'Arc ou le Grégoire, et aujourd'hui on a aussi Conseil Général via l'Office Tourisme,
oui,
qui sont en train de regarder très sérieusement à redévelopper un réseau. En considérant que c'est un point positif et qu'il amènerait à terme aussi les richesses.
Alors
évidemment, par contre, pour que ça fonctionne, c'est aussi la présence de haltes tout au long du trajet. Donc je pense qu'il faut aussi prendre ces éléments-là en considération dans la réflexion.
Alors là, pour l'instant, ce que j'ai compris de ce que faisait c'est Oise Tourisme, hein, ils font un état des lieux de ce qui existe. Mais dans les réunions récentes, alors à laquelle je n'étais pas, mais j'espère que je serai à la prochaine, ou que quelqu'un de Verberet du conseil municipal sera à la prochaine, dès qu'on aborde les aspects financiers, le conseil général devient beaucoup plus flou.
Mais aujourd'hui, il n'y a pas la question du financement sur le conseil général.
Alors,
c'est pas financé dans le cadre d'un programme. En revanche, c'est par le dépôt d'un dossier de la même manière que pour toute autre subvention du Conseil Général. Et vous avez aujourd'hui aussi le Conseil Régional qui est en train de regarder très sérieusement et qui commence à en parler. Donc c'est aussi le bon moment de s'inscrire dans ces démarches-là.
Mais il est inscrit au niveau du schéma de développement touristique du Conseil Régional, au niveau du pays copinois. Il est inscrit. Bon, alors maintenant, après, on fait ou on ne fait pas. Mais il est inscrit. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a jamais eu connaissance de ce rapport.
Oui.
Qui est complètement contradictoire à celui des luttes de relais.
Bon. Et je l'envoie à tout le monde, hein, le rapport.
Ouais, ouais,
pas
non,
de...
Mais, pariez, bon. Non, vous n'avez jamais eu ça. Moi, non plus, jamais eu.
Bon, ceci dit, on est là pour une discussion, justement, c'est très bien. Et c'est bien le but, hein, c'est aussi de faire le point de situation. Hein. Donc je note qu'effectivement, on est inscrit au niveau du Pied-Compiénois. Ceci dit, voyant tout ça, j'ai quand même appelé l'Arc, qui était cité à plusieurs reprises, et j'ai une dame qui s'occupe plus particulièrement du tourisme, là. Et typiquement, Compiègne a commencé aussi, lui, à mettre, hein, enfin, c'est ce qui m'a été dit du moins, la pédale douce sur ces affaires-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eux, à leur niveau, ils vont faire les installations qui leur permettent d'accueillir, comme vous l'avez dit, le bateau croisière de Longueuil-Anel. Et puis elle m'a dit, voilà, pour l'instant, stop, on attend des jours meilleurs. Et là-dessus, d'ailleurs, on a parlé un peu des équipements de style électricité dont je parlais tout à l'heure et autres, alimentation en eau qui était à mettre en place au niveau de ce genre d'installation. Et elle m'a dit que c'était quand même très cher, parce qu'évidemment...
C'était dans les 675 000 euros quand même, heureusement.
Oui, ben on va regarder.
Oui, oui.
Enfin, on va regarder. Bon, si vous le dites, mais moi j'en suis pas certain. J'ai pas vu le détail hein, de ces 675 000 euros. J'ai vu un chiffre, en fait. Hein. J'ai vu un chiffre global. Hein. Alors, pour continuer sur ces aspects-là, donc, après, l'autre aspect, c'était reconstitution d'une simple berge. Bon. Donc, toujours dans le même rapport, page 49 du rapport de VNF, était indiqué, Verberie ne constitue pas réellement un but de promenade fluviale clairement identifié, et les autres sites vont lourdement investir dans les capacités d'accueil supplémentaires. Il convient donc d'être prudent en termes de perspective. Dans ce contexte, une option serait de prendre en compte que les autres composantes du tourisme fluveste, comme celles liées à la pêche ou à la randonnée, cyclistes et pédestres. Donc ça, c'est ce qu'ils disent. Ainsi, pourrait s'imaginer un simple aménagement de promenade au bord de l'eau et une zone engazonnée qui servirait à des activités festives, fêtes de l'eau, projection d'images sur le silo... qu'est-ce qu'il cite encore ? Donc, je vous lis ce qui est marqué. Hein. Bon, activité halieutique ou cycliste. Bon, cycliste, c'est plus réaliste, quoi. Quelque part, il y a la piste cyclable qui passe à côté. Mais un aménagement de ce type ne participe pas au développement de la voie d'eau et condamne son rôle dans la valorisation des atouts de la commune. La perspective de la demande restant incertaine pourrait inciter à ne réaliser que des aménagements paysagers, mais cela obérerait toute capacité de perspective d'avenir. On ajoute plus loin, mais elle a au moins l'avantage de réduire le coût d'investissement réalisé par la commune et de s'intégrer dans le schéma des collectivités pour le tourisme vert. Voilà. Ne pas faire de halte ne changerait rien à la situation actuelle pour les plaisanciers privés, dont la demande réelle n'est pas rigoureusement établie, faute de mesures exactes. Plus loin encore, une zone paysagère au bord de l'eau donnerait à la commune de Verberie un espace qui pourrait être utilisé pour des événements sociaux, festifs à imaginer, en lien avec la rivière. Bon, ceci dit, j'ai ajouté, tant qu'il n'y aura pas la liaison RN2, peut-être que quand il y aura la liaison RN2, RN31, il y aura donc moins de circulation à ce niveau-là, et donc ce sera possible aujourd'hui, vu la circulation qu'il y a, bon, ça me paraît quand même assez difficile. Alors, qui pourrait contribuer au financement d'une halte fluviale? Donc, en ayant téléphoné à l'ARC, moi aujourd'hui, j'ai compris que ce n'était pas vraiment d'actualité. Ceci dit, pourquoi pas. Le conseil général et le conseil régional, bon, à voir.
Non, mais l'ARC ne pourrait pas financer la halte nautique.
Pourquoi? Elle a bien financé une partie du port de Longueuil.
Non, mais c'est pas... Non, mais le port de Longueuil, c'est un syndicat autonome.
D'accord, mais dans lequel l'ARC a adhéré.
Dans lequel il y a l'État.
Non, mais je ne dis pas que c'est la même chose.
Non, c'est totalement différent. L'ARC ne pourrait pas... Non.
Alors, VNF, comme je vous l'ai dit, hein, rien à attendre, sauf des aides pour des études. Voilà.
Mais ça, c'est 2012.
C'est 2012. Je suis désolé, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur de date. Hein. Je vais vérifier tout à l'heure, mais bon, généralement, je ne fais pas trop d'erreurs quand même. Mais c'était bien ça, hein, monsieur. C'est vous qui me l'avez fourni. Donc voilà. J'ai donc.
Vous m'avez fourni, quand est-ce que vous l'avez eu? C'est un mail que j'ai reçu.
Oui. Oui, oui. Il y a eu d'autres réunions, il y a eu des comptes rendus. Je les ai tous, hein. Mais bon, là, c'est vraiment l'étude qui était assez exhaustive. Et dans les autres comptes rendus de réunion, je n'ai pas trouvé de points extrêmement différents avec ça. Hein. Mais on peut... ici, on est là pour en discuter, hein, donc il n'y a pas...
Il est évident que le nombre de bateaux qui passent sur l'Oise est assez peu... et pas très important, puisque c'est d'ordre, je crois, de 1200 ou de 1300 bateaux à l'année. Et que, bon, aujourd'hui, il n'y avait pas de halte, vraiment de halte nautique. Hein. Il y en a un peu à Verneuil, mais c'est loin du centre-ville.
Il y en a pour Sainte-Maxence.
Il y en a pour Sainte-Maxence.
Pour Sainte-Maxence, en centre-ville, vous avez des plaisanciers qui s'arrêtent assez souvent et vous avez une péniche équipée, donc là, je crois que c'est un acolyte, quelque chose comme ça, qui se positionne, j'ai plus la fréquence en
plus. Et ça rapporte de l'argent à la ville de Pont-Sainte-Maxence?
Ça rapporte forcément de l'argent à la ville de Pont-Sainte-Maxence puisque les gens consomment.
Ouais.
D'une manière ou d'une autre, ça soutient le commerce local.
Ouais.
Et l'échelle.
Ouais. Madame Arnoux. Chut. À la fois, s'il vous plaît.
La ville de Pont-Sainte-Maxence, ça a un acte fluvial qui est en plein centre-ville, dans un cadre qui est joli, qui est élégant. Tandis que nous serions quasiment en zone industrielle. Il faut avoir envie de stationner en zone industrielle.
Et il y a d'autres personnes qui voulaient prendre la parole? Madame Barouin, vous vouliez prendre la parole? Non?
C'est moche de l'autre côté, c'est pas de notre faute.
Eh ben,
non, non, mais ça, c'est un contexte, on n'y est pour rien.
C'est de l'autre côté que c'est moche.
Mais en général, les plaisanciers préfèrent la montée de l'aide. Au-dessus, c'est quand même plus joli.
Bah,
c'est
oui.
Évident. C'est évident que plus vous avez, moi j'ai fait du Havre, voilà. C'est bien à partir de Pompiers. Mais maintenant, il y a des bateaux qui vont sur Paris, il y a des bateaux qui... Mais il y a 1200 bateaux, mais c'est vrai que sur un plan économique, ça reste quand même vraiment minimal. Même si... Mais ça permettait l'aménagement de cette entrée de ville qui, bon, aujourd'hui, est quand même assez...
C'est vrai, pour un coût de 675 000 euros, hein, taxe.
Oui, non, mais à savoir combien on peut obtenir de subventions, du FEDER, de l'Europe et de la région, ça reste à définir, puisqu'aujourd'hui...
Si on nous donne de l'argent, on le prend. Hein.
Aujourd'hui, il n'y a plus de pourcentage de temps, il n'y a pas de minimum maximum. Donc tout est reste dans une négociation. Si évidemment ça nous coûte que 20% du montant, c'est intéressant. Si ça nous coûte 80% du montant, ça reste inintéressant. C'est dans ce sens.
De toute façon, le coût réel de la halte Plaisance, c'est pas 675 000 ou 800 000 euros TTC. Enfin, j'espère que ce sera l'investissement au moins. Donc on récupérera la FCTVA. Donc on va dire 675 000. Ce sera en fait le différent, parce que de toute façon, on va être obligé de remettre en état les berges. Donc en fait, c'est le coût différentiel entre la remise en état des berges, je vais au bout puis vous commentez, entre la remise en état définitive des berges et le coût de la halte Plaisance fournie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, dans ce que j'ai lu, je n'ai pas trouvé de coût pour la simple restitution en état des berges. Parce que c'est bien sur ce montant-là, pour moi, mais M. Fleury va s'exprimer après, qu'il faut faire le calcul. Voilà, je vous laisse la parole.
Oui, le montant de restitution des berges avec un enrochement coûtait extrêmement... Alors là, je n'ai pas le chiffre, mais il était rien que sur la partie démolie, il était de 120 000 ou 130 000 euros, je sais que c'était un chiffre déjà extrêmement important. Et il fallait à ce moment-là faire la totalité... Bon, là, on rabaissait, dans le projet des 675 000, on rabaissait la berge pour que les bateaux, c'est-à-dire qu'il y avait une pente douce hein, qui arrivait au bord de l'eau pour que les bateaux de plaisance puissent se... et qu'ils ne restent pas suspendus, bon, parce que là, c'est très haut, c'est monté par les échelles. Donc, c'était une pente douce, et ensuite, il y avait... Pour moi, ce qu'il en reste, hein, mes souvenirs, c'est qu'il y avait l'électricité et il y avait même aussi, eux souhaitaient, VNF, qu'il y ait un arrêt pour les camping-cars. Vrai ou pas ?
Ça, ils en ont reparlé.
Bon, vous voyez, ils en ont reparlé.
Oui.
Chose que, moi, je veux dire que je ne savais pas si j'étais pour ou...
Je ne vois pas très bien le lien, très honnêtement, enfin, on est là pour en discuter, je ne vois pas très bien le lien entre la halte Plaisance et le camping-car.
Moi non plus, je ne voyais pas très bien. Donc, si vous voulez, c'est un rabaissement de la berge vers l'Oise, et à ce moment-là, il n'y avait pas à refaire, c'était la totalité de réfection de la berge. Donc, on faisait, il n'y avait pas en plus la réfection de la berge. Puisqu'il disait...
Ah oui, non, on est d'accord. 675 000 euros, c'est la totalité.
C'est
hein.
La totalité.
C'est pour ça que je dis que le vrai calcul, c'est sur le différentiel entre une simple réflexion des berges. Après, reste à savoir si on fait une simple réflexion des berges et qu'on ne prend plus en compte l'accotement de bateaux, etc., si on peut peut-être se limiter à moins que toute la berge. Enfin, ça, c'est à rediscuter. Hein. On n'est peut-être pas obligé de faire tout. C'est ce qu'écrivait, d'ailleurs... Je vous l'ai lu tout à l'heure, c'est ce qu'écrivait le cabinet l'étude géotechnique. Maintenant, est-ce que depuis, c'est toujours valable ?
Oui,
de toute façon, il faudra que ce soit...
Les 90 mètres.
Bah, écoutez, dans l'étude géotechnique...
De la mer, des 90 mètres.
S'il est envisagé de réaliser un quai neuf, donc là, on est dans le cadre des possibilités avec réutilisation du port. Il conviendra de reprendre l'ensemble de l'ouvrage existant, réalisant dans un premier temps une purge totale du quai existant. Qu'ils avaient écrit. S'il est envisagé de réaliser un enrochement, autrement dit juste la protection de la berge, il est possible de limiter la reprise à la partie de quai qui a déjà bougé. En cas de propagation des désordres sur le reste du quai, il sera toujours possible d'étendre la solution d'enrochement. C'est ce qui est écrit. Maintenant, est-ce que VNF valide cette partie-là ? Parce que finalement, après,
ça coûterait moins cher.
C'est eux qui donnent leur... faut sans doute se battre aussi, mais... C'est quelque part, de toute façon, ils sont quelque part, comment dire, l'autorité de validation, quoi. Hein, il faut qu'ils valident les travaux.
Il faut pouvoir demander un devis pour savoir combien ça va coûter.
Exactement.
Sachant que sur un enrochement, on n'aura pas de subvention. puisque vous n'avez pas de développement touristique, vous n'avez pas de développement économique, et donc à ce moment-là, on aura zéro, et on prendra la facture en totalité.
Oui, oui.
Voilà. C'est pour ça qu'il y a un comparatif à faire.
Alors,
je pense que tout le monde est bien d'accord sur le fait qu'il faut au moins connaître le prix de l'enrochement global pour au moins avoir le différentiel. Et après, effectivement, s'il y a des subventions, il faut les prendre en compte. Hein. Aujourd'hui, c'est quand même très incertain. Et ce qui me fait un peu peur aussi, c'est que quand même, on a la partie qui est dans l'eau et il faut sans doute s'en occuper rapidement. Moi, je suis pas expert. Donc, est-ce que VNF nous raconte des histoires sur ce sujet-là ou pas ? Ceci dit, si demain il est dans l'eau, combien nous coûte un dragage ?
S'il part dans l'eau, c'est le point qui va partir dans l'eau. Et avec les grimettes de fond, ça va partir dans l'eau. Mais comme il y a autant de sable que de terre en dessous, ça va partir avec. Hein. Vous n'allez pas rester avec... en plein milieu de derrière.
C'est
technique.
Pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure, qui décidera de faire le dragage et de l'ampleur du dragage ? C'est VNF. Nous, on n'aura pas notre mot à dire. En tant que gestionnaire de la voie d'eau, ils diront « je vous impose telle chose ».
Il faut les droits, on paye.
Attention. Alors, si on a cette discussion aujourd'hui, c'est parce qu'on ne va pas tarder à recevoir VNF. Et comme vous le comprenez, faut mettre les cartes sur table et il faut avancer là. Parce qu'on ne va pas pouvoir rester l'arme au pied très longtemps.
Enfin, lorsque on leur a demandé à chaque fois, c'est quand même eux qui n'ont pas répondu à nos demandes. Hein, parce que je veux dire que VNF, pour les bouger, c'est un peu comme la SNCF. Hein. Pour avoir des retours, c'est extrêmement difficile. Puis si jamais après, ils sont mutés, c'est un autre, il n'y a pas eu le temps, le dossier...
Ce qui valide ce que vous dites, hein, c'est tout à fait l'histoire dont on parlait tout à l'heure. Ils voulaient qu'on fasse une étude de quoi ?
Une analyse de sol.
Donc on leur avait demandé des précisions qui étaient tout à fait légitimes. Et comme à la fin, ils n'ont pas répondu auprès... Je ne sais pas, ils ne savaient pas ou j'en sais rien. Mais ils ont dit, non, finalement, on n'a plus besoin de l'étude de sol. Donc les conclusions de cette discussion, c'est au moins qu'il faut demander quel est le coût d'un enrochement. Parce que c'est finalement la base de comparaison. Après, si on peut récupérer des subventions...
Je me souviens des réunions avec la VNF où...
C'était pas 142 000
euros ?
Non, ça s'était limité.
J'avais vu 142 000 euros de
capacité. Ouais, la VNF avait demandé un enrochement pour maintenir la...
effondré pour un déblaiement et la faute de Alpe-Planche. C'est pas la même chose ?
Non.
Non, il y a eu des tas de devis dans tous les sens, mais c'est, au final, c'est pas très clair.
Il va falloir réactualiser tous les livres.
Mais pour revenir à ce que vous disiez.
Oui, oui, monsieur Leblanc.
La VNF, à l'époque, nous avait dit OK pour l'enrochement. Si, dans le futur, vous faites la halte fluviale et que l'enrochement saute et que la halte fluviale est faite comme elle doit l'être faite. Ils avaient refusé un enrochement comme décision définitive. Ne pas oublier que dans la convention, on nous dit qu'on doit le rendre à l'identique en 2020. Un enrochement n'est pas identique de ce qui est, tombé à l'eau.
Oui,
donc ça veut dire un investissement de...
Je crois, qui tombera à l'eau.
Un investissement de 140 000 euros
donc, ça
pour maintenir la berge. Pour maintenir la berge, en attendant, c'était une mesure de protection.
C'est bien la question.
Momentanée. Voilà. Ils ne nous donnaient pas l'autorisation de faire perdurer. Dans l'enrangement, on tenait la berge et après on prenait une décision.
Ça veut dire qu'on dépenserait 142 000 euros pour 6 ans.
Qu'on fasse quelque chose jusqu'à temps qu'on fasse. Oui, en 2020,
dans l'état
qui nous a été donné.
Oui,
mais enfin.
On peut remettre des briques comme en 1936.
Oui, après, je suis pas des moyens de travail actuels et des pas le plan.
Non, mais enfin, c'est quand même. C'est une grande.
Moi, dans leur dossier, ils parlaient de reconstitution de berge, simple reconstitution de berge, donc on va leur poser la question. C'est sûr que ça ne va pas leur faire plaisir, mais on va leur poser la question.
Le problème, c'est que plus on attend, plus l'interlocuteur est différent.
Pardon ?
Il est, au fur et à mesure du temps, les réponses.
VNF a quand même eu un rapport sénatorial il n'y a pas longtemps qui était pas très, qui leur était pas très favorable.
Non, et puis il y a toujours un ingénieur différent. Dans les réunions, c'est jamais le même ingénieur.
Voilà, c'est ça le problème.
Du coup, vous avez un, il part, j'en ai un autre.
Tous les ans, ça change.
Une fois, vous avez Gagne Paris,
Voilà, je vous propose de conclure cet échange-là et de passer au point suivant. Parce que, donc, le point suivant concerne le CIVOM. Donc, Ferrou, là, je te laisse la parole. Madame Raoui, pardon, je vous laisse la parole.
J'ai fait un petit compte rendu de ce qui s'est fait depuis le dernier point qu'on a fait ensemble. Au niveau de l'eau, je vais commencer par la bonne nouvelle, puisqu'au niveau de l'eau potable, il y avait un différend, un litige avec le CIEF de Longueuil pour des factures impayées depuis quelques années. Donc ces factures impayées représentaient 30 environ 40 000 euros. Et de l'autre côté, il y avait également le CIVOM avait payé les factures qui étaient dues au CIVOM, au CIAP, alors que ça aurait dû être la Lyonnaise des Eaux.
Oui, c'est la Lyonnaise des Eaux qui doit payer au CIVOM de Longueuil.
Oui, or c'est le CIVOM qui avait payé les factures pendant des années.
Ah non, mais là,
depuis 2005.
Ah non.
Ah si, c'est pour nous. Pour certains, depuis 2005. Donc, nous avons fait une dernière réunion là, le 11 septembre avec les parties prenantes, c'est-à-dire les deux syndicats et leurs délégataires, ainsi que la comptable, puisque c'est sur injonction du comptable que nous avions, quand on l'avait rencontré avec Mme Cusy en début de mandat, qui nous a dit qu'il y avait à peu près 200 000 euros qui étaient, que la Lyonnaise des Eaux devait reverser au CIVOM, pour lesquels ça traînait. Et de l'autre côté, on avait M. Barthélémy qui nous réclamait 39 000 euros d'impayés pour les 6 derniers semestres. Donc ça remonte du deuxième semestre 2010 jusqu'au premier semestre 2013.
Mais Mme Cusy, je ne comprends pas, moi, comment elle a pu. Elle pouvait payer des. Il ne lui incombait
ça,
pas.
C'était vraiment de la circuit
financier. Pas, puisque normalement, le CIVOM achetait. C'est pas le CIVOM qui achetait de l'eau à Longueuil.
Il y a une convention,
Google,
qui, règle,
une convention qui fait que c'est la Lyonnaise qui doit payer l'eau au CIVOM de Longueuil pour le mélange, étant donné que c'est la Lyonnaise qui facture. Donc c'est à elle d'acheter l'eau. Ça n'est pas la tête d'une logique à chacun.
Les choses ne sont pas passées comme ça, c'est-à-dire que c'est le CIVOM qui a payé.
Et au final, aujourd'hui.
Au terme, à l'issue de cette réunion, tout le monde est parvenu donc, sur la Lyonnaise et reconnu le devoir de l'argent. On devrait récupérer. Ben, on est très heureux. On doit émettre un titre de recette très prochainement lorsqu'il n'y a pas de pièce justificative à fournir. On devrait donc pouvoir rentrer dans nos caisses à peu près 200 000 euros. Voilà, donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Et puis, pour éviter les aléas que je viens de vous indiquer, il a été décidé collectivement de procéder à l'élaboration de nouvelles conventions qui sera cette fois-ci quadripartite. Qui sera validé par la loi trésorière de Concept Maxence et qui organisera le circuit financier entre donc, le vendeur et le CIVOM qui est acheteur, à savoir que notre délégataire paiera directement le délégataire du CIAP, la SOR, avec évidemment une communication des documents instantanément au CIVOM pour savoir où on en est, combien on a consommé. Non. Combien on a payé, si ça a été payé, pour suivre ça de façon très, très pressante et qu'on ait plus ce genre de soucis.
Enfin, le bilan, c'est qu'on récupère 200 000 euros, ça c'est la bonne nouvelle.
Oui.
Mais je crois que derrière, malheureusement, on a un certain nombre de mauvaises nouvelles.
Alors après, c'est le niveau d'assainissement, malheureusement, c'est des mauvaises nouvelles. Parce que là, effectivement, sur la station d'épuration, depuis 2011, nous avons des relances de la Drieux au niveau national pour la pollution. La production en phosphore, l'activité de phosphore de la station d'opération, la non-conformité. Il faut savoir que cette non-conformité a un dommage financier, puisque d'après les éléments donnés, notre redevance pollution est au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire que la moyenne est des 0,37 euros de mètre cube pour des stations d'opération qui fonctionnent correctement. La nôtre ne fonctionne pas correctement, on paye 0,40 centimes d'euros le mètre cube, donc c'est déjà une pénalité financière. Et là, sur ce dossier-là, on était aujourd'hui au stade de la validation du dossier de consultation des entreprises, ainsi que sur le traitement du H2S sur les postes de la rue des Moulins et de la rue Alexis Carrel. Ces premiers travaux sont très urgents, notamment sur ce qui est le H2S. La direction des élus nous a dit qu'on était arrivé à un stade de danger, et qu'il fallait donc faire réaliser ces travaux très rapidement, ce qui fait que nous allons donc avoir une première tranche de travaux pour lesquels les marchés seront lancés très prochainement, et qui seront engagés au début 2015. Et sur ces deux postes-là, nous avons 670 000 euros de travaux. 540 000 pour la station d'épuration et 150 000 pour les deux postes. Parce qu'il y aura un traitement chimique très lourd au chlorphérique, et qui sera donc renouvelé tous les 6 mois, ce qui explique que ce sera comme un coût sur la durée également, et ce qui va entraîner un avenant avec la Muniaise des Eaux, puisque c'est la Muniaise qui va acheter ce produit, qui va procéder au traitement. Il y aura donc un avenant à la hausse pour, avec la Muniaise pour ces nouveaux traitements. Et bon, voilà.
Donc, leur 200 000 euros.
Pardon ?
C'est pour récupérer leurs 200 000 euros.
Je ne sais pas si c'est maintenant, là malheureusement ce n'est pas la Lyonnaise qui nous impose ses travaux, ce sont les autorités. Donc là on n'a pas vraiment le choix, on espère que les marchés nous donneront des sommes inférieures à ce que je viens de vous annoncer.
C'est l'agence de l'eau qui nous impose aussi des choses là.
L'agence de l'eau, non, surtout vraiment l'autorité de la police de l'eau au niveau national qui nous impose ses travaux.
Il y a une subvention.
Oui, mais les travaux sont subventionnés donc, à 40% par la Lyonnaise, par l'agence de l'eau, avec 20% en avance sur 20 ans. Et pour le reste, nous avons très peu de cofinancement. Donc, pour la première tranche, on a un petit peu de cofinancement, mais pour les tranches suivantes, parce qu'il y en aura d'autres, qui sont estimées sur Verglosie à. Je chiffre. La tranche suivante, ce sont les réseaux qui sont en très mauvais état, donc rue de Saint-Pierre, rue de Paris, rue de la République. Et les travaux pour ces réseaux-là peuvent passer pratiquement du simple au double. C'est-à-dire que s'il y a un simple chemisage sans reprise des branchements, ça nous coûtera 854 400 €. Et comme l'agence de l'eau tient absolument à ce que les travaux se fassent, à cette occasion, il soit vérifié que les branchements sont étanches, et que dans les cas où ils ne seraient pas, évidemment, il faut qu'ils le deviennent. Du coup, le devis montré à 1 550 880 €. Et ça, ce sont des travaux qu'on aura réalisés peut-être à court terme, puisqu'ils seront effectués concomitamment avec les travaux de voirie que le Conseil général envisage de faire sur ces
rues. Je complète un petit peu, c'est-à-dire que l'agence de l'eau dit si on n'est pas capable de que tous les branchements sont étanches, cherchez le terme, on ne vous donne pas la subvention.
On n'aura pas les subventions, de toute façon, on n'aura pas le choix. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est effectivement pour faire les travaux de ce que je vous ai annoncé, notamment rue des Moulins pour le traitement chimique du RGZS, le Alexis Carrel, il nous faut du parcellaire. Il nous faut du parcellaire, c'est-à-dire que ça demande des parcelles supplémentaires pour mettre en place les équipements. Donc pour la ville de Moulins, il faudrait 4 mètres carrés, 25 mètres carrés, pardon.
Oui, là.
Ça, il faudrait essayer soit le voisin, on négocie avec le voisin.
Ben, on tombe dans le détail, là, de choses qu'on est en train de faire, mais qui. Voilà. Bon, voilà, on ne va pas aller jusqu'au boulon de 12 dans le conseil municipal.
Après, les réponses, ça dépend de
nous.
Il faudra prévoir
effectivement
des emprunts pour compléter les financements.
Et,
voilà.
Et je crois que tu vas aussi renégocier des prêts.
Oui, également, j'ai prévu les convois de renégocier deux emprunts d'Exia pour des montants qui sont relativement importants et qui sont actuellement à plus de 5% en taux. 5, 10 pour
Bon.
S'il te plaît. Quelle influence ça peut avoir sur nos factures d'eau actuelles?
Ah, l'influence, elle sera de toute façon évidente, puisque pour rembourser l'emprunt, on sera contraint d'augmenter la surtaxe assainissement.
D'accord.
Alors, la DTO a fait une estimation haute. On va dire 0,76 euros le mètre cube. Alors, tout dépendra des financements qu'on aura et tout dépendra également de l'étalement. Parce que ça, je vous donne là, ce sont les premières coupes de travail. Parce que c'est sur l'ensemble des réseaux et des communes. Enfin, c'est vraiment les 5 premières années. C'est le diagnostic qui avait été fait par le cabinet Verdi.
Sauf que le prix du diagnostic a effectivement bien gonflé du fait que l'agence de l'eau a dit d'un seul coup qu'elle voulait l'étanchéité de tous les raccordements.
Voilà. Ah, ouais, je m'étonne un peu quand même dans ça qu'il n'y a rien eu de fait depuis quand même pas mal d'années. Hein. Ouais. Sur le dernier mandat, bon, c'était pas Verberie qui était à la tête, hein, mais... Il n'y a rien eu de fait du tout sur tout ce qui est les réseaux d'eau. Et ça, je trouve ça incroyable. Enfin, on a...
Vous vous rendez compte que rue de la Mabonnerie, il y a encore des gens qui rejettent,
ouais, ben enfin,
qui rejettent dans le pluvial. Hein,
je signale, ouais, mais c'est... Ouais, je ne comprends pas.
Ils n'ont pas de...
Mais dans le CIVOM, quand même, il y a, ça va, certes, étant enfin, la présidente, puisque c'est elle qui était présidente... À l'époque, a rien fait, mais enfin, on avait aussi un représentant de Verberie au CIVOM à l'époque qui a non plus rien alerté. Enfin, j'ai jamais entendu parler de ça à un conseil municipal auparavant. Enfin, je suis un petit peu désolé de le dire, mais c'est comme ça.
Hein. Vous parlez de ce qu'on a envie de vous parler, hein, pour le président.
Non, mais il y avait une vice-présidente qui était rémunérée d'ailleurs, hein, à l'époque. Hein. Voilà.
Non, mais c'est vrai qu'on trouve des choses quand même qui sont en souffrance depuis plusieurs années. Et là, les premiers mois, je m'attelle à essayer de reprendre les dossiers des uns et des autres pour partir sur de bonnes bases.
C'est quand même le citoyen qui paye là-dedans, à chaque fois. Hein.
C'est très dommageable pour les usagers, effectivement.
Je te dis que j'ai fond de la lourde, donc je vais me barrer d'ici. Autrement, je vais payer plus cher et rien qu'à
l'attendre. On va faire aussi des primes d'épuration. Puisque du fait que notre station d'épuration n'est pas aux normes, nous avons de moins en moins de primes d'épuration. Sauf si c'est une ressource en moins, et nous payons plus de redevances pollution.
Donc là, nous allons revenir aux normes.
Nous allons revenir aux normes dès que les travaux seront réalisés. D'ailleurs, on s'est engagé vis-à-vis de la police de l'eau au niveau national à rendre compte des travaux qui ont été faits. Il y aura un contrôle de conformité qui sera fait à cette occasion.
Merci.
Voilà.
Merci, Madame Raoui. Merci pour le compte-rendu et merci pour les actions aussi et le travail qui est fait là-bas au syndicat des eaux. Voilà, c'était le dernier sujet, il n'y a pas de questions diverses. Je vous propose donc de conclure la séance là, il est déjà assez tard. Mais je crois que, bon, c'est toujours intéressant d'avoir des discussions. Le prochain conseil municipal...